Bienvenue dans Entre deux notes, le podcast où on parle musique, inspiration et aventure créative. Aujourd'hui, on va discuter sans plan précis, juste une vraie conversation autour de la prod, du son, de ce qui nous motive dans la musique. Voilà. Mais on a un invité spécial qu'on va présenter après. Mais avant toute chose, comment ça va, Linvi ?
Ça va très bien. Et toi, PKMWT ?
Bah, ça va super. Comme d'habitude, podcast mensuel. Et puis, on a fini un petit peu nos 5 podcasts sur le cheminement de comment passer d'une petite idée à la con à une track distribuée, hein, puisqu'on a fait composition, mix, mastering, publication, distribution, hein, c'est ça ?
Ouais.
Et puis maintenant, on va être un peu plus libre antenne. Et on a un petit invité, enfin pas un petit, un gros, un grand, un épique invité, n'est-ce pas ? C'est Azekeno. Salut Azekeno.
Salut à tous.
Azekeno qui est aussi membre de Music We Trust, notre collectif qu'on a fondé avec Linvi. Et puis bah toi Azekeno, finalement tu fais partie aussi de la fondation finalement, puisqu'à deux on ne fonde pas un podcast, on ne fonde pas un collectif, mais tu fais partie de ces membres actifs de ce collectif. Azekeno, d'où ça vient ce nom déjà ?
Alors, donc moi je suis DJ et producteur drum and bass. C'est producteur, c'est assez récent. J'ai été DJ pendant 10 ans avant ça. Et donc, il me fallait que je trouve un nom de DJ. Donc, j'avais trouvé Eskenobi. À terme, en fait, quand j'ai fait ma pause, ben, je suis parti vers le gaming et la Xbox trouvait que mon nom était trop long. Donc, ça s'est terminé en Eskeno et je trouvais ça stylé. Donc, voilà, j'ai gardé.
Ah, cool. Donc, drum and bass. Drum and bass.
Drum and bass forever.
D'accord. Et tu produis depuis quoi ? Un an, t'as dit ?
J'ai commencé en janvier l'année passée, ouais.
Ok. Et on peut déjà retrouver pas mal de tracks sur SoundCloud, hein, je crois.
J'ai été plutôt productif, ouais. On n'a pas chômé.
Donc, je te recommande d'écouter notre dernier podcast sur la distribution. Voilà, ça c'est fait. Si tu veux savoir où distribuer, par quel distributeur, mais chaque chose en son temps.
Chaque chose en son temps.
Voilà.
D'abord le produit, ensuite la distribution.
Tout à fait, tout à fait. Cool. Des petites news, Linvi, qu'est-ce que tu deviens, toi ?
Bah, j'ai une collab qui a été finie.
Laquelle ? Mystère !
Bah oui, laquelle ? Je sais pas si on peut le dire.
Bah si, vas-y.
Bah, notre collab à nous deux, donc ouais. Un peu synthwave pour le coup. Mm-hmm. Et sinon, bah, un petit contest sans Claude, là, le remix de De La Soul, All Is Good, qu'on est en train de faire avec Osinji. Mmh. On ne s'est pas encore publié, mais on en sort en bonne voie. En tout cas, lui, ici, il a publié, moi, pas encore. Je suis en train de finaliser. Mmh. Donc, voilà pour les petites news pour l'instant.
Et y aurait-il pas un petit EP du collectif Music We Trust qui serait en préparation ?
Ah oui, effectivement.
Embryonnaire, hein, mais...
Petit EP qu'on prépare avec les membres du collectif où on part sur un même sample. Donc, moi que j'ai déjà le sample que j'ai déjà bien torturé comme il faut. Mais ouais, ça c'est un chouette petit projet qu'on s'est mis aussi. Donc ça fait partie des petites news. Ouais.
Ah, cool. Et toi, Azekeno, les news ?
Les news, moi la plus grosse news, c'est que j'ai un EP qui sort sur un label belge qui s'appelle Bankies Records. Ça sort mardi le 22. À part ça, pas mal de projets en cours, beaucoup de collabs. Bon, on est encore en mode, on fait du volume pour le moment, mais voilà. C'est...
Ouais. Donc toi ta stratégie finalement, c'est produire, avoir du contenu, quoi. Et puis après...
Mais c'est surtout là, je commence à avoir, à être satisfait de mon travail, mais je me rends bien compte qu'il y a encore... Il y a encore beaucoup de taf et donc pas le temps de chômer, quoi. Mais
te faire la main, je crois, non ?
Ouais, c'est plus. En fait, le volume, c'est plus pour travailler mes skills que pour faire vraiment du contenu. Après, vu qu'il y a du volume, il y a du contenu qui suit et c'est très bien. Ça permet de travailler aussi le développement sur les réseaux et commencer à se créer une petite communauté. Mais le but premier, encore à l'heure actuelle, c'est de d'évoluer dans la production musicale. Là, je me laisse vraiment jusqu'à 2026 en mode tryhard. On essaye des choses, on réfléchit à la direction artistique. C'est assez vaste finalement. Et donc voilà, à partir de 2026, j'essaierai de trouver une stratégie un petit peu plus qui me convienne pour développer tout ça, quoi.
Ouais.
Je sais pas si je dis quelque chose de faux, mais il me semble que c'est une stratégie très DJ de se dire, en fait, je sais ce qui marche sur les platines, puisque t'as éprouvé des dance floors finalement. Et quand tu te mets à la production, en fait, tu vas produire jusqu'à ce que tu arrives à une qualité que tu connais, que tu sais qui peut marcher sur un dance floor, sur le type de musique que tu fais. Et une fois que tu as cette quantité, tu as, je sais pas moi, sur 100 tracks, tu en as une qui ressort du lot et c'est celle-là que tu vas mettre en avant, etc. etc. J'ai vu quelques DJ qui ont cette philosophie-là, en fait. Alors que moi, je suis pas du tout de l'univers DJ et je vais plutôt prendre une track. Bon, je la laisse tomber, j'en fais une autre. Et au bout de la deux, troisième, je la fais à fond et puis je la sors, quoi. Parce que je l'ai eu à la sueur de mon front et je la pousse, tu vois. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Zekeno?
C'est vrai que c'est assez proche de comment on travaille quand on est DJ. C'est-à-dire qu'un bon DJ, finalement, c'est quelqu'un qui a passé des centaines et des centaines d'heures, voire des milliers, derrière ses platines. Mais non, à la base, en fait, moi, le volume... Bon, je vais mettre un peu de contexte. Donc moi, à partir du moment où j'ai commencé la production, je me suis formé directement chez Igor Chevalier de Strobe Studio. On lui fait un petit coucou parce que ses formations sont vraiment qualitatives. Et donc lui, il essaye vraiment de... Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans la production musicale. Des gens qui vont rester sur le même projet pendant 6 mois, 7 mois, alors qu'ils n'ont pas les skills de toute façon pour la mener à terme correctement. Donc ça faisait partie des pièges que je voulais éviter. Étant donné que bon, j'ai déjà 38 ans, j'ai envie que mon apprentissage se fasse de la manière la plus rapide possible, sans pour autant la bâcler, évidemment. Mais donc, le volume, en fait, ça permet de... Tu fais un projet, tu essayes de le mener à bien avec les moyens du bord, avec les skills que tu as au moment T. Mais le but, c'est toujours d'essayer de travailler quelque chose en particulier, quoi. Donc mon point de vue par rapport à ma production musicale, c'est à chaque fois que je finis une track, j'essaye d'analyser c'est quoi mon point faible, enfin le plus gros point faible en tout cas. Et donc sur la prochaine, c'est cet élément-là que je vais bosser en particulier. Et puis au fur et à mesure que les skills ils s'accumulent, voilà, toujours se remettre en question, toujours essayer de nouvelles choses. Et voilà, et le volume il permet finalement de pas se perdre en conjoncture.
D'accord. Et toi, Lenvi, alors, ta stratégie?
Ouais, je sais pas, c'est vraiment une stratégie, c'est ce que je m'étais dit, il faut que je me mette à la musique. Quand j'ai commencé, moi, j'ai oublié, maintenant, ça fait un an et demi, c'était en octobre. Non, c'était avant, c'était en novembre. En novembre 2024.
Ça fait presque 2 ans?
Non. Ouais, ça va faire bientôt dans deux, 3 mois, ouais, ça va faire 2 ans, ouais. Ouais, le temps passe vite, hein. Ouais. Quand je m'étais mis, je m'étais dit, il faut que je fasse une track et que je la finisse quoi qu'il arrive, parce que je finissais jamais mes tracks. Et à partir de là, j'ai fini ma première track, et après, j'ai essayé de faire un truc plus ou moins qualitatif, mais bon, je me suis mis une contrainte de temps, donc j'ai fait mais c'est pour ça que mon premier morceau, je l'ai refait 3 fois, parce que la qualité, c'était pas encore ça, au niveau du mix et autres. Donc, mais après, j'ai réussi à me tenir et à faire comme Zekeno dit, c'est d'essayer de cibler 2-3 points à améliorer sur chaque track. Parce qu'après, le problème, si ta première track, t'attends qu'elle soit parfaite, tu la sors jamais, quoi, dans certains côtés.
Mais toi, ta strat, c'est pas faire 100 tracks et puis t'améliorer. Tu te concentres quand même sur un nombre réduit de tracks.
Oui, j'essaie de faire une track par mois, ouais. Mais quoique je suis un peu en retard, là, depuis son projet de Linville, un peu en pause, là, depuis 2-3 mois. Mais oui, c'est ce que j'essaye de faire, effectivement. C'est de faire une track de manière régulière, un peu en mode label, quoi. Comme si tu vas produire autant de tracks sur une certaine période, sur un an, sur 2 ans. Mais après, effectivement, d'améliorer au fur et à mesure certaines choses ou d'apprendre des nouvelles techniques de production, parce que c'est dur de... Donc là, comme je dis, si t'attends d'avoir la track parfaite, ça sortira jamais, quoi. Parce que on apprend toujours, et quand même, quand t'entends des trucs publiés, t'as les artistes connus, ils ont progressé aussi à travers leurs morceaux, quoi. Donc après, il faut quand même que le premier, enfin, il faut quand même sortir une qualité minimale. Donc on est d'accord, mais je veux dire, une fois que je l'ai, que j'ai réussi à l'avoir plus ou moins, bah, c'est ce que je fais un peu comme Azekeno, c'est que j'essaye de, d'améliorer 2-3 points à chaque fois, quoi, de regarder un peu les retours, donc, et de voir ce que je peux améliorer à ce niveau-là.
Ouais, cool. Bah, moi, de mon côté, alors déjà, mon actu, c'est quoi? C'est, j'ai sorti une track No or Never il y a moins d'un mois. Le fait déjà bientôt 4000 écoutes, donc ça, c'est cool. Voilà, et puis, je vais sortir le 4e track qui fera partie de l'EP qui va sortir en novembre, je pense. Pour l'instant, c'est très embryonnaire, voire j'ai même pas encore correctement commencé, puisque je travaille sur le morceau de l'EP du collectif et je me rends compte que j'arrive pas à bosser sur 2 projets en même temps. Donc, je me concentre sur un et après, je me concentrerai sur l'autre. C'est ça. C'est monotâche. Je suis monotâche. Voilà, c'est comme ça. En fait, et j'expliquerai après ma philosophie sur la musique par rapport à vous deux. Mais voilà, donc ça, c'est mon actu. Et puis, j'ai repris contact avec mon graphiste de l'année dernière pour faire un petit peu tout ce qui est les pochettes du prochain EP. Donc ça, ça va être cool. Franchement, ça va, je pense, complètement changer de l'année dernière. Ben, c'est avec Kevin Nicolini, du coup, qui est une bête. Mais vraiment, ce gars, c'est une bête. Tu lui racontes ton projet, il te sort, il a des inspirations de malade. Donc, je vous le conseille, hein, Kevin Nicolini. Voilà, il est un peu plus dans le rétro, etc. Hein. Donc, moi, c'est vraiment ma cam, hein, puisque je suis dans la synthwave. Voilà. Tu dis ?
C'est ton univers.
C'est mon univers. Et en plus, sur ma musique que je fais cette année, donc avec inspiration japonaise, en fait, il a les mêmes rêves que moi. Donc, en gros, il était complètement dans le cadre, quoi. Bon, voilà, donc ça c'est cool, on va bien s'éclater là-dessus, il est déjà en train de bosser à fond dessus, et puis on verra ça prochainement. Et dans comment je produis la musique, moi je suis pas dans la quantité, pas forcément dans la qualité non plus, mais en fait c'est dans l'idée de se dire, en fait je vais pas bosser sur 100 tracks pour en trouver une bonne et puis la sortir, mais effectivement j'ai quand même, je pense, en une année je fais une vingtaine, trentaine de projets, et puis au final, il y en a 4-5 qui sortent, quoi. On va dire ça comme ça. Mais d'autres, c'est plutôt des pré-compositions, voire des 8-bar loops, voire un peu des compos, vite fait. Et voilà. Je m'essaye au jam un petit peu aussi. Je jam sur mes instruments, etc., pour voir qu'est-ce qui en sort. Et c'est rigolo parce que c'est un parallèle qu'il y a un petit peu entre... Bon, c'est complètement hors sujet, mais j'avais un peu lu ça. C'était la différence entre SpaceX... Et comment ça s'appelle ? Blue Origin. Vous voyez ce que c'est, Blue Origin ?
Ok, Blue Origin, non.
Blue Origin, c'est le gars d'Amazon qui fait aussi la course à l'espace, tu sais, avec Elon Musk. Voilà.
Jeff Bezos.
Et Jeff Bezos, exactement. Alors, deux super ultra riches. Et en fait, eux, ils ont deux philosophies complètement différentes pour faire la course à l'espace. Jeff Bezos, lui, il le fait à l'ancienne, comme la NASA. C'est-à-dire, il essaie de se fixer un objectif. En fait, il y va par étapes. Alors, d'abord, il essaie de lancer, il essaie de construire une fusée. Après, il essaie de la faire monter à 100 mètres, ensuite à 1 km, ensuite à 2 km, ensuite à 3 km, etc., etc. Elon Musk, lui, il construit une fusée et il veut la foutre dans l'espace tout de suite. Mais il en bousille 300, tu vois. Jusqu'à ce qu'il y en a une qui passe.
C'est ça. Oui, regarde les erreurs, regarde pourquoi ça n'a pas marché. J'ai vu ça aussi.
Exactement, c'est deux philosophies inverses. C'est-à-dire que Blue Origin progresse aussi. Ils sont aussi arrivés au même point, mais beaucoup plus lentement et avec moins d'innovation que Elon Musk. Mais Elon Musk, lui, au final, il y est arrivé quand même, beaucoup plus vite. Mais par contre, il fait encore pas mal de fails. Mais c'est beaucoup plus efficace. Voilà. C'est lui qui domine maintenant le marché, etc. Et je pense que c'est vraiment un mindset, pour revenir à la musique, c'est un mindset. Je dirais pas très DJ, mais les DJ, ils ont déjà une vue. Ils ont un outil implacable, c'est qu'ils savent ce que le dance floor veut ou ne veut pas, entre guillemets. Ils ont un moyen de try très facilement. Alors, toi, je sais qu'Azekeno, t'es plus trop. Enfin, tu refais encore du mix devant des gens, hein, on va dire. Mais t'avais arrêté un moment et quand t'es revenu, t'es plutôt axé sur la prod. Mais je pense que ton mindset était plutôt sur est-ce que ce que je fais va faire bouger les foules, quoi. Tu vois ? T'avais déjà
dans la drum and bass, finalement, quand tu produis, c'est de toute façon pour intégrer tes tracks à tes sets. Mais je voudrais quand même faire une parenthèse parce que j'ai parlé de faire du volume. Ouais. Mais je fais pas non plus 10 000 tracks, 10 000 projets et machin. C'est à la base, je voulais faire une track par mois. Je m'étais imposé ce rythme. Et c'est assez important. Bon, après, quand on fait de la production musicale, je pense que chacun doit trouver sa recette. Mais moi, ça, c'est une recette qui a bien fonctionné pour moi. C'est de me mettre des deadlines à court, moyen et long terme. Et ça permet de dégager l'énergie et de trouver des solutions pour y arriver finalement. Et donc, dans un premier temps, moi, j'avais mis une track par mois. Maintenant que j'ai fait une pause carrière et que je me mets à 100% dans la musique, ben ça me permet d'en faire beaucoup plus. Finalement, j'arrive facilement à terminer 3-4 projets par mois. Bon, je suis pas tout seul, hein. Je fais pas mal de collabs avec des amis. D'ailleurs, faites de la musique avec vos amis, c'est génial. Mais donc voilà, travailler avec eux, ça booste pas mal ma créativité, ce qui me permet de finir les tracks beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas non plus, je fais 100 tracks et puis ah ouais, celle-là elle est pas mal, je vais la terminer. J'ai de release un maximum et de faire un projet réfléchi et fini malgré que je fais du volume. C'est juste qu'une fois qu'elle est terminée, je sais que j'ai encore du chemin à faire pour arriver vraiment à un top niveau quoi. Mm-hmm. Et donc pour revenir à ta question sur les DJ, mm-hmm. J'ai perdu le fil.
Bah en fait, c'était l'idée de se dire bah toi en tant que DJ, t'as déjà un outil mental pour te dire bah j'ai ce sentiment de me dire, ça, je sais que ça va pouvoir marcher sur un dance floor ou pas, avec l'expérience.
C'est ça, mais en fait, et ça m'a pas joué des tours, mais ça m'a desservi, c'est que vu que j'ai fait une grosse pause au DJing, j'ai quand même arrêté presque 10 ans, ben, j'étais un peu sorti de la drum and bass, et donc, quand j'ai repris la production, j'avais pas de direction artistique claire. Maintenant que je me suis remis au DJing, que je côtoie des DJ, que j'écoute de près ce qui sort régulièrement, et en fait, ça t'aide à savoir où tu veux aller finalement et à éviter de perdre du temps sur des idées qui sont un peu bancales quoi. Donc effectivement quand t'es DJ et que tu veux jouer ta musique, c'est un avantage par rapport à ta production finalement. Enfin, je trouve.
Ouais. Après je repose le contexte, hein, on parle beaucoup de musique, on parle presque exclusivement de musique électronique ici, donc voilà. C'est pour ça qu'on aborde le sujet dance floor. Moi, ma musique, elle est moins dance floor, elle est plus de la musique à écouter, day to day, quoi. T'as ça, à playlist Spotify, etc. Donc, j'ai moins ce côté dance floor, même si je l'ai beaucoup côtoyé du côté pas DJ, mais du côté gars qui danse sur le dance floor.
Très bon côté aussi, hein.
Oui, très très bon côté. Mais disons, j'ai moins ce. En fait, mon point de vue sur la musique, ça va plutôt être, pour moi, quand je crée un morceau, je mets, ça fait un peu con de dire ça, mais c'est mon bébé et je le mets au monde, tu vois. C'est un peu le côté paternaliste autour de ça. C'est que j'ai besoin de créer pour, voilà. Donc c'est plutôt, je vois ça plus comme une création que comme un divertissement de dance floor sur le moment. D'ailleurs, je rêverais qu'on remixe mes morceaux en mode dance floor pour voir ce que ça donne, parce qu'ils sont pas du tout adaptés pour ça. Mais voilà, l'idée, c'est je suis plus dans la création de musique, etc. Et je pense pas... D'ailleurs, quand j'avais commencé à publier sur Beatport, j'avais peu d'espoir qu'un DJ il prenne ce morceau et se dise « Oh putain, je vais le mettre tel quel sur un dance floor, quoi. » Ou alors, il faut vraiment faire un match-up de malade pour que ça donne quelque chose. Voilà.
Mais j'imagine, c'est parce que la synthwave, finalement, ça se joue plus en concert artiste que soirée, finalement.
C'est d'une part c'est ça et d'autre part j'ai plus un ADN pop dans mes musiques que ne serait-ce même synthwave ou encore plus électro techno qui passerait en boîte. Donc je suis assez éloigné du truc. C'est plutôt j'adore écouter ma musique soit en déplacement, soit sur mon canapé, enfin voilà, c'est plus de la musique comme ça.
Mais c'est assez important, je pense, de savoir où ta musique va être écoutée, dans quelles conditions elle aura une meilleure plus-value finalement, et ça te permet aussi de prendre des meilleures décisions quoi. Par exemple, moi comme tu le dis, le but c'est quand même que ça soit joué, ça c'était mon but premier, c'est que ça soit joué en soirée. Et donc déjà j'avais un impératif de qualité parce que je voulais pas que mes musiques sonnent moins fort que les tracks du commerce, même si la Loudness War c'est un petit peu le combat de tout le monde, en tout cas quand tu veux que ta musique soit jouée en soirée un peu plus encore. Et puis aussi, fatalement, par rapport à ton arrangement, si ton but, c'est d'être écouté dans un salon pour te relaxer, etc., tu vas pas avoir la même approche que si tu veux que ça envoie du pâté et que ça fasse jumper tout le monde, quoi.
Ouais. Ne serait-ce toi, en fait, tu voulais pas non plus faire des morceaux qui soient une purge à mixer toi-même pendant tes propres soirées, quoi. Si elles sont trop faibles, à chaque fois, il fallait que tu les remontes. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
C'est même pas possible. Ouais. En fait, c'est plutôt si tes tracks, elles ne vont pas assez fort, mais en fait, tu dois baisser toutes les autres. Parce que la tienne, toi, si tu veux la pousser, elle va saturer, ça sera dégueulasse. Donc, effectivement, c'est assez important. Ouais.
Donc, tu avais déjà ce mindset, c'est bien. Enfin, tu avais cette expérience et ce mindset. Et ça, je pense que c'est assez... C'est pour ça que je revois un petit peu ces mécanismes chez beaucoup d'autres DJ qui deviennent producteurs. Après, il y a aussi le mindset de producteurs qui deviennent DJ, ça c'est encore autre chose, ou qui deviennent DJ pour produire leur musique, ben voilà. Et qui sont plus à se dire, ok, je viens avec mes platines, mais j'ai toujours mon truc modulaire et mon launchpad qui traîne parce que j'ai envie de produire en live. En fait, c'est complètement différent, c'est rigolo. Ou son petit clavier MIDI qui traîne, qui le démange pendant qu'il fait son set.
Tu l'entends en fait au résultat que ça donne. C'est-à-dire que quand un DJ qui devient producteur, il va souvent faire des tracks efficaces qu'il peut caler dans ses sets.
C'est ça.
Alors que le producteur qui devient DJ, finalement, c'est sûrement qu'il commence à avoir un petit succès et qu'on le book. Mm-hmm. Et donc, il va réfléchir à son set différemment pour vraiment mettre ses tracks en avant, essayer de raconter une histoire. C'est pas du tout le même exercice finalement. Et puis, il n'y a pas forcément un qui est mieux que l'autre. Une fois que c'est bien fait, les deux sont carrément cool, quoi. Mais c'est clairement pas la même approche.
Ouais. Toi, Lenvi, t'en penses quoi?
Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec ça. Enfin, que c'est deux choses différentes, donc les deux se complètent. Après, moi, DJ, j'ai pas eu trop d'expérience à part en tant que DJ événementiel, là. Donc, c'est pas vraiment la même chose non plus. Donc, voilà, non, je pense que c'est deux choses. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent répété qu'il faut penser ces tracks pour le mix, ou du moins avoir une version extended mix de sa track pour que le DJ ait plus facile à faire les transitions, quoi. Donc, ça augmente les chances qu'un DJ, il se dise, ah, celle-là, cette track-là, je vais peut-être bien la mixer, ouais. Je vais la prendre dans mon set et je vais l'intégrer. Parce que si t'as un truc qui commence d'entrer avec, au moins de faire un gros drop ou un truc comme ça, c'est pas toujours évident. Donc, de toute façon, au moins, ça laisse la marche, toi, d'avoir une intro et une outro assez longue. Ça te laisse la marche au DJ de vouloir, s'il veut faire une intro plus, une transition plus douce, bah, il peut partir là. Puis s'il veut vraiment partir directement sur le drop parce qu'il prépare, sur son match-up, il fait un gros drop, bah, il peut quand même aller au milieu du morceau. Quoi. Mais c'est vrai que ça donne une possibilité en plus pour les DJ, moi, de ce qu'on m'a dit. Donc, c'est vrai que je ne m'étais pas posé trop la question au début, je composais. Et bon, je dois avouer que là, pour l'instant, vu les musiques que je fais, ce n'est pas non plus vraiment forcément destiné à du dance floor, donc je ne prends pas trop ça en compte non plus. Mais c'est vrai que si on veut viser le dance floor, bah, il faut penser au DJ aussi, et qu'est-ce que le DJ va pouvoir faire avec ça.
Ouais, c'est chaud. Hein. Mmh. C'est vrai que maintenant que tu reparles des versions extended, putain, j'avais encore cet objectif de me dire je vais mettre mes tracks, je vais essayer de les mettre en extended à un moment donné, mais j'ai tellement perdu cet objectif.
Une fois que Music We Trust sera bien développée, t'auras plein d'artistes qui remixeront tes sons.
Exactement, voilà. Et je vais en embaucher exprès.
Je m'y attaquerai peut-être bien à l'occasion quand je l'aurai un peu fait le tri dans mes projets en cours, parce que là je suis un peu chargé pour l'instant, mais...
Ouais. Alors, en plus, donc, j'ai commencé à repréparer mes stems. Alors, pas les stems mix masterisés, mais les stems un peu bruts, on va dire. En fait, j'essaie de préparer les deux. Les stems mix masterisés déjà pour pouvoir faire du live aussi, hein, du fameux live, pas avec des platines, mais avec des launchpads et des trucs comme ça, où tu peux directement sur une touche directement lancer ton stem finalement, ou tes séquences, etc. Et pour ça, il faut avoir du son déjà fini. Finalement. Hein. Et mes stems bruts, parce que j'ai cette fameuse formation la semaine prochaine à Audio Camp à Bordeaux, où je vais apprendre un peu plus de façon approfondie le mix et le mastering. Hein, et je vais peut-être en profiter pour reprendre toutes mes tracks, toutes mes stems, et puis voir ce que je peux en faire. On va dire ça comme ça. J'ai essayé de commencer à prendre mes vieux projets de l'année dernière. Quelle horreur! Quelle horreur! Imprenable. Je crois que j'ai même des... En fait, le souci, c'est que je mixais et je masterisais sur du MIDI, quoi. C'est une horreur. Je bounceais même pas avant, sur ma première track. Et maintenant que je réécoute, en fait, le MIDI colle même plus. Je crois que c'est même plus les mêmes rythmes et tout. J'arrive même plus à caler le son que j'avais précédemment. J'ai pas de bounce, quoi. À part le stéréo.
Après, le point positif, c'est que tu vois à quel point t'évolues, et c'est quand même...
Ouais. Et à partir de la deuxième track, ça allait mieux. Je commençais à faire un projet séparé pour le mix. Donc, je commençais à balancer. Et à la troisième, ça allait mieux aussi. Mais donc, j'ai dit, OK, je pense que l'EP de l'année dernière, j'y touche pas. Je vais le laisser comme ça. Il est bien. C'est mon premier EP. Voilà. J'en ressortirai une version mix masterisée peut-être une autre fois quand j'aurai le temps. Mais par contre, les trois morceaux de cette année, eux, j'ai les stems, je pense, corrects. Donc, je vais me concentrer sur cela. Comme ça, dans mon prochain EP qui va sortir, bah, je pourrais relancer les quatre tracks que j'aurai sur cet EP, version nickel. Voilà. Je pense que ça serait un objectif plus atteignable. Oui.
Ouais, je veux juste rebondir là-dessus. En fait, ça, c'est un avantage quand tu fais de la musique destinée au club et, et au dancefloor en général, c'est qu'en fait, tu peux t'auto-remixer. Moi, il y a quelques mois, j'avais fait un petit peu le tour de tous mes vieux projets. Ben, en fait, tu te rends compte, bon, ok, j'avais pas les skills pour faire sonner, mais t'as toujours au moins l'idée est intéressante, t'as toujours des passages intéressants. Et donc, en fait, je m'étais dit, ben, je garde ça sous le coude et si un jour je suis en panne d'inspi, ben, hop, on ressort un vieux projet qu'on met au goût du jour et on refait tout, on garde juste les fondations, on va dire. Et après, ben, et je me suis déjà remixé deux tracks qui finalement ne seront pas release. Donc, à mon avis, je vais encore les remixer d'ici quelques mois. Mais en tout cas, c'est bah, ça fait de la matière à garder sous le coude, quoi.
Que tu vas peut-être utiliser dans des sets, quoi, finalement, en tant que DJ.
À terme, ouais. C'est juste que quand j'ai fait ce remix-là, ben, finalement, c'était quand même il y a 4-5 mois, j'étais pas satisfait du résultat final. J'étais content. La track était beaucoup mieux que ce que j'avais fait l'année passée, évidemment. Mais j'étais pas satisfait même pas à 80%. Donc voilà, à quoi bon la release. Je garde ça sous le coude et puis... Si un jour ça se fait, ben.
Moi, ouais, ça d'ailleurs... serait bien de se faire une petite bibliothèque comme ça avec ces morceaux pas finis, enfin finis mais pas peut-être pas satisfaisants ou des bouts de morceaux pour piocher dedans.
Après, en drum and bass, ça se fait aussi beaucoup. Les gens ils release une track, ils en sont satisfaits, mais après 5-6 ans plus tard, ils se disent oh tiens j'aurais pu faire ça comme ça et ils font une VIP et puis voilà c'est ouais. La même track mais c'est une nouvelle track finalement. Et... Bah, le travail est quand même vachement pré-mâché, quoi.
Ouais. Alors, je vais faire le gars qui sait pas, mais en fait, il sait vraiment pas trop. Pourquoi VIP? Ouais, mais...
Parce que, en fait, c'est quand même assez proche de la première version. En fait, c'est pas assez original pour dire que c'est un remix ou. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. Ça veut dire qu'on va vraiment garder la même vibes. Mais on va ou l'améliorer parce que bah, en 5-6 ans, la technologie a évolué et donc c'est mieux. Et on va faire quelques petites variations pour que...
D'accord. C'est la version premium de l'original, quoi.
Voilà, c'est ça. Okay, version de luxe.
La version VIP. Ok, ouais, je me demandais si VIP voulait dire autre chose que, tu vois, VIP. Mais non, en fait, ok.
Donc, je crois que ça voulait dire quelque chose, non c'est, je crois que ça voulait dire variation in production, je crois. J'avais déjà vu une liste avec la liste de tous les termes parce que c'est vrai que tu as des... T'as des termes pour tout et du coup c'est vrai, c'est Variation Production, donc c'est une version alternative. Donc ça colle avec ce que dit Azekeno ici.
D'accord, bah tu vois, nickel. Bah tu vois, j'en ai appris.
Ouais, cool. Mais t'as totalement raison, Lindy, je viens de regarder. Effectivement, VIP, Variation in Production.
Ouais, parce qu'il y a, j'ai déjà vu sur le net, il y a déjà des listes avec tous les termes comme ça pour que tu peux mettre à la fin d'un titre. Ouais. Quand tu fais des variations, enfin, toi, t'as les trucs, t'as les classiques, t'as les match-up, t'as les bootlegs, t'as les remixes, etc. Mais en fait, t'as genre 30 termes comme ça. Et ouais, la moitié, je connaissais pas en plus.
Et tu t'y perds, quoi, cover, machin.
Ouais.
J'ai appris que bootleg, en fait, moi, là-bas, je pensais qu'un bootleg, c'était tu prends une mélodie d'une track et peut-être la base d'une autre track et finalement, tu fais un mash-up, quoi. Mais en fait, pas du tout. En fait, un bootleg, c'est un remix, mais où t'as pas les droits.
Ouais.
C'est ça. Ouais. La classe, quoi. Ok. Bah, parfait, parfait. Petit sujet supplémentaire, mais pas des moindres. Où est-ce que t'en es dans ta découverte de cet univers ultra passionnant qu'est la promotion, Azekeno ?
La promotion, c'est clairement ma bête noire, mais j'y travaille. Après, le problème de la promotion, c'est que ben, t'as pas vraiment de recette miracle, quoi. C'est, t'as des trucs qui fonctionnent, qui sont répertoriés, mais finalement, il faut arriver à faire quelque chose de pas trop différent des autres. Parce que, en général, quand t'es trop original, ça plaît pas forcément. Mais en même temps, arriver à te démarquer, donc, et savoir comment fonctionne chaque réseau. Là, j'ai encore eu une longue discussion hier avec une collègue d'un autre Discord et on parlait vraiment de comment faire des posts appropriés à chaque réseau. Par exemple, elle me disait faire que du Instagram et relier tes comptes avec ton Facebook, mais finalement c'est pas spécialement intéressant parce que ce qui marche sur Insta va pas forcément marcher sur Facebook, etc. quoi. Donc c'est le problème de la promotion.
Chaque plateforme a son langage, genre c'est TikTok, ça, ouais. YouTube, YouTube Short, Instagram, Instagram Reel. Oui, ça, tout a son langage et son public aussi. On ne consomme pas de la même manière. Moi, je ne suis pas sur TikTok, par exemple. Je ne suis plus sur Facebook non plus, donc je suis vraiment que quasiment Instagram. Il y en a d'autres qui font que du TikTok, il y en a d'autres qui font que du Facebook, il y en a, tu vois, et il y en a que du YouTube, bref. Ouais, clairement. Mais après, moi, je pense qu'il y a un truc où tu essayes sur certaines plateformes, tu regardes où ça prend. Hein. Moi, j'ai le même problème sur la distribution musicale, les plateformes de musique. Moi, je sais qu'il y a des plateformes, je sais qu'il y a du monde sur ces plateformes, parce qu'elles sont là, elles existent, mais il n'y a strictement personne qui va t'écouter sur cette plateforme, parce que soit tu n'es pas son type de musique, soit même avec toutes les promos du monde, bah ouais, c'est pas ton public, quoi. C'est, voilà. Moi, c'est plus Spotify, je sais qu'il y en a d'autres, c'est plus Apple Music, d'autres, ça va être plus SoundCloud, d'autres, ils vont vendre que sur ce Bandcamp et ils vont trouver leur public dessus. Il y a un langage et il y a aussi un genre de musique qui va plus coller à une génération et à une génération qui va plus coller à un réseau ou à un mode de consommation. Et au-delà de ça, il y a aussi l'INVI qui a fait tout le travail derrière d'aller chercher tous les réseaux de distribution des pays et de se rendre compte qu'il n'y a pas que Spotify dans la vie, n'est-ce pas, l'INVI?
Ah ouais, ça, non, c'est, oui, parce que nous, on est habitué au côté américain, YouTube Music, Amazon, le côté ouest, Spotify. Ouais, c'est good, mais en fait.
Spotify, c'est surtout plus. Amérique du Nord et l'Occident, finalement. Europe,
c'est l'Ouest.
Et Amérique du Nord,
ouais, c'est ça, c'est l'Ouest, ouais. Mais il y a tellement plus des plateformes, il y en a des centaines et des centaines.
On a même pas creusé la Chine, je crois, parce que la Chine, c'est encore. T'avais creusé un peu la Chine, toi?
Je crois que c'est QQ pour la Chine. Ouais. Je crois qu'il y en a deux, il y a QQ et je sais plus quoi.
Mm-hmm. De même. La Chine et l'Inde, bon, je sais pas trop comment faire des promotions là-bas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des énormes marchés et ça se développe pas mal au niveau musical.
Ouais,
quoi.
Mais c'est surtout qu'il y a une population de malades et il y a une classe moyenne qui vient aussi, hein, qui émerge ou qui est de toute façon présente. C'est cette classe moyenne que théoriquement tu vises puisque c'est elle qui va consommer ta musique de façon pas gratuite, si possible. C'est-à-dire au moins payer un réseau de streaming, tu vois. Alors, ils vont peut-être le payer moins cher qu'en Occident, donc tu vas avoir moins de commissions. Mais moins de commissions sur 1 million de personnes, plus de commissions sur 10 000 personnes. Voilà. Après, je veux dire, bon, un Indien, il va peut-être pas écouter un style de musique occidentale non plus. Donc, attention à ça.
Ça dépend, hein, parce qu'en fait, l'Indien, finalement... pas mal de racines anglaises. En fait, je sais bien que l'Inde, c'est une nation qui aime beaucoup la drum and bass, par exemple. Ah. Et la Chine, j'ai été assez étonné d'apprendre ça. Bon, ça fait quand même 2-3 ans que je suis au courant de ça, mais la techno, ça tombe pas mal. T'as aussi des soirées Skrillex en concert en Chine. Enfin bon, voilà, quoi. C'est des pays qui se développent pas mal musicalement aussi.
Oui.
Donc, c'est clairement pas à négliger.
Moi, j'ai trouvé aussi sur ma musique qui est un peu ce mélange musique japonaise et puis synthwave. Donc City Pop, Synthwave. Ben en fait, t'as un énorme marché au Brésil, en Malaisie, en Philippines aussi, et au Mexique.
Ok.
Et Mexique, j'ai trouvé ça dernièrement. Enfin, je voyais que j'avais des écoutes au Mexique, mais je comprenais pas la nature de leur engouement. En fait, je sais qu'aux Philippines et en Malaisie, il y a une grosse diaspora japonaise là-bas, et ils sont très proches, hein, géographiquement, tout simplement. Donc il y a eu, pendant l'âge d'or du Japon, justement dans les années 80-90, ben en fait, la culture japonaise s'est beaucoup propagée là-bas, la pop japonaise s'est propagée là-bas. Et en Brésil aussi, il y a eu une diaspora japonaise, donc ils ont emmené aussi leur musique avec. Au Mexique, je ne comprenais pas trop, mais je ne comprends pas toujours, hein, je pense qu'il y a une diaspora aussi, mais en fait, un des plus gros artistes qui fait ce genre musical, donc le future funk, en fait, il s'appelle Macross 82... 99, c'est ça, son nom d'artiste. Et en fait, il est mexicain. C'est un des plus gros artistes de ce genre musical et il est mexicain. C'est trop bien. Donc, j'ai un peu ciblé ces marchés-là et j'ai eu pas mal d'écoutes sur ces marchés-là. Alors, l'US est en numéro 2, je crois.
Qu'est-ce que t'as fait pour cibler le Mexique? T'as fait des moves particuliers?
Non, j'ai juste ciblé le monde entier. J'ai lancé mon spaghetti, il a collé au mur. Voilà, c'est un peu. Mais en fait, il a collé un peu dans ces endroits-là. Et après, j'ai particulièrement ciblé ça avec des publicités méta, etc. Moi, je fais beaucoup de ce qu'on appelle le dark post. D'accord ? Le dark post, c'est, tu sais, t'as ton Instagram ou ton méta, ton TikTok, j'en sais rien. T'as tes posts visibles. C'est-à-dire, tu postes ton truc et puis après, tu le promouvois. Mais en fait, c'est quelque chose qui est visible. Le dark post, c'est tu fais de la pub, mais qui n'est pas visible sur ton mur. C'est en fait la pub qui passe à travers le fil d'Instagram quand tu scrolles. Tout d'un coup, tu as une pub qui arrive, tu cliques dessus, tu arrives sur une page et puis tu arrives sur ta playlist et puis voilà.
Ok, ouais.
Et ce post, tu ne le verras plus dans... Il est lié à ton compte. Donc, quand tu cliques dessus, tu arrives sur mon compte ou tu arrives sur un lien. Voilà. Mais il n'apparaît pas sur ma page. C'est un dark post.
C'est un peu comme les ads sur Insta.
Exact, c'est une ad Insta. Mais tu peux prendre un post que tu as sur ton Insta et le transformer en pub.
Ouais, bien sûr.
Mais tu peux aussi créer une pub, la faire poster comme si ça serait un de tes posts à toi, mais il n'apparaît pas.
Parce que
moi, je ne veux pas non plus que mon Instagram se transforme en TF1.
Tu vois. Pollué, quoi.
c'est un peu moche, tu vois. Donc en fait, tu vas pas faire le même contenu en dark post que dans ton.
Mais c'est aussi un des problèmes de la promotion, c'est-à-dire que la publicité, on en a besoin, mais c'est assez mal reçu. Donc il faut arriver à faire supplément. Voilà. Et...
C'est ça. Donc en dark post, j'ai ciblé. Tu peux cibler des pays. Hein. Au début, j'avais ciblé tous les pays occidentaux en majorité. Et je crois que c'est toi aussi, Linvi, qui l'avais relevé pas mal. C'est y a une différence de coût entre les pays, c'est ça?
Ah bah oui. Oui, c'est la différence entre les pays, comme ils appellent ça, les pays tiers et les pays premium. Mmh. C'est le pouvoir d'achat, c'est que forcément, un auditeur occidental qui paye son abonnement Spotify 10 euros par mois, il va rapporter plus que je sais pas moi, un Indien ou avec le change, le taux de conversion, c'est très faible. Ils n'ont pas un pouvoir d'achat très élevé comparé à nous. Parce que le coût de la vie là-bas, c'est sur d'autres mesures que les nôtres. Ouais. Donc, il y a ça. Et puis après, aussi, pareil, si tu vends des t-shirts, donc ça apporte des revenus de streaming en direct. Mais si tu fais du merchandising, par exemple, que tu mets ton beau t-shirt là à 35 balles, c'est qui va pouvoir se le payer. Ça, les Occidentaux, ça ne va pas être pareil. Ça va pas être les Africains ou les Indiens, parce que pour eux, 35 euros, ça va être une somme.
C'est colossal.
Trop grosse pour un t-shirt. Ouais.
Voilà, donc du coup, c'est ça qui a une différence dans le marketing. Je vois qu'ils ont fait une distinction effectivement en pays premium et les pays tiers. Mais aussi un autre truc, donc effectivement, par rapport à ce que tu disais juste un peu avant, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'il faut viser la bonne plateforme sur le bon pays. Si tu vas faire de la pub Spotify, moi, je sais pas, au Japon, alors qu'au Japon, ils n'utilisent pas du tout Spotify, c'est ce qu'on s'était rendu compte, c'est que ça marche pas en fait. Ouais. Donc, du coup, faut se renseigner par rapport au pays qu'on cible, quelle est la plateforme utilisée. Donc, mettre les bons liens là-dessus. Parce que, bon, pareil, SoundCloud, Spotify, tout ça, c'est des trucs occidentaux, mais dans les autres pays, ils ne connaissent pas forcément.
Ouais, alors au Japon, il y a une émergence de Apple Music maintenant. Parce que, en fait, les Japonais sont très satisfaits et c'est très à la mode d'acheter un iPhone. Donc, forcément, l'iPhone met en avant Apple Music. Donc, en fait, j'avais peu de succès sur Spotify, comme tu dis. Plus sur YouTube, parce qu'ils sont très YouTube aussi, le Japon. Mais bon, YouTube, voilà, ça rapporte encore moins. Mais depuis que j'ai mis ma playlist Apple Music, le Japon, c'est mes premiers consommateurs Apple Music. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc oui, vas-y, continue.
Voilà, donc il y a ça. Il faut utiliser la bonne plateforme. Et alors, aussi, effectivement, peut-être adapter les publicités ou faire des campagnes différentes selon les régions, quoi. Donc, j'imagine que c'est ce que font certainement les équipes marketing des gros artistes. Ouais. Et aussi, peut-être qu'il y a certaines régions qui ne vaut pas la peine d'être ciblées. Parce qu'un autre truc qui est intéressant à voir, c'est de regarder où se trouve, c'est de prendre un artiste de référence qui a un style le même que le nôtre pour savoir où se joue, dans quel pays il marche, cet artiste-là. Parce que sinon, si tu vas, je sais pas, voilà, comme par exemple, il avait dit à Zekeno que la drum and bass, ça marche dans certains pays. Si tu vas faire de la drum and bass en Chine, c'est peut-être pas utile, quoi. Donc, tu vas peut-être perdre ton argent en faisant de la promotion là-bas. Donc, faut cibler le bon public. Et alors, une chose qui peut être intéressante de faire ça, c'est de regarder où se trouve le public d'un artiste qui fait le même genre que nous.
Oui, oui.
Où est-ce qu'il est, dans quel pays il marche? Et par exemple, il y a des outils gratuits comme songstat.com, stats comme statistiques. Tu mets le nom de l'artiste et tu vas voir les zones du monde où il marche bien.
Il y a les tranches d'âge aussi, je crois, non?
Les tranches d'âge, non, il faut des outils plus avancés. Par exemple, tu as Vibrate.com qui, lui, l'offre, mais il faut, ça coûte, quoi. Il faut payer. Mais en outil gratuit, oui, parce qu'effectivement, tu as plusieurs médiums. Tu as plusieurs médiums dans tes statistiques à prendre en compte. Tu as l'endroit, donc le pays. Tu as la tranche d'âge, parce que forcément, une certaine tranche d'âge ne sera pas forcément intéressée par le même type de musique.
Potentiellement le sexe aussi.
Et c'est ça, il y a le sexe, donc le genre.
Ah, tu rigoles. Tu pensais à quoi, là?
T'as surtout la façon de présenter ton produit aussi qui diffère.
Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, faut peut-être faire des campagnes adaptées selon le public que tu vises, quoi. Donc, par exemple, si tu vas t'adresser à une tranche d'âge peut-être 40-50, tu vas peut-être pas mettre un message avec plein d'emojis. Enfin, je caricature un peu, tu vois, mais...
Non, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que cibler des Chinois entre 40 et 50, c'est pas la même approche que cibler des Américains entre 40 et 50.
Exactement, d'où l'utilité d'avoir des campagnes peut-être différentes et adaptées en fonction du public et de l'endroit que tu cibles, c'est ça.
Ouais.
Parce que c'est pas la même méthode.
C'est un peu le problème, enfin, qui n'est pas un problème en soi, mais c'est un problème quand t'es producteur de musical. C'est en fait, t'as énormément de métiers qui interagissent entre le début de la production musicale et le moment où ça arrive aux oreilles des auditeurs. Donc, t'as producteur, t'as ingé son, t'as promoteur, on va dire, celui qui fait la promotion, mais t'as aussi, si tu veux jouer en live, t'as DJ ou artiste jammer, quoi. T'as aussi monteur vidéo, parce que tes promotions, va falloir les mettre en avant. Et puis, t'as aussi comment réfléchir à comment tu tournes tes vidéos. Enfin, ça a énormément de casquettes. Et je pense que, chacun essaye de faire un maximum tout seul par souci pécunier, évidemment. Mmh. Mais c'est presque impossible, en fait, à arriver à un moment. C'est pour ça que moi, je bosse beaucoup la production. Je commence à tâtonner sur les réseaux, etc. Je teste des trucs, mais à terme, quand je serai vraiment satisfait de ma production, on est obligé de déléguer avec, voilà, il n'y a pas le choix, quoi.
Ah, bah, c'est ça, parce que ça reste des métiers à part, donc, tu t'approvises pas.
Ils sont tous aussi, enfin, c'est vraiment des métiers très deep, en fait. C'est que les gens qui excellent là-dedans, peu importe la casquette, hein, c'est des gens passionnés par ce qu'ils font et qui vont chercher vraiment des trucs très, très concrets. Ben là, tout ce que tu viens d'expliquer, l'INVI, finalement, ça a été beaucoup d'heures de recherche pour comprendre comment ça fonctionne. Mais après, pour comprendre ce que tu dois faire, c'est encore beaucoup d'heures de recherche.
Effectivement.
C'est des choses. Voilà. Et à un moment, il y a 24 heures dans une journée, c'est compliqué.
Moi, je pense que les recherches que l'INVI a faites et moi aussi de mon côté sur d'autres, sur le playlisting et les distributions et trouver mon public, en fait, ça nous a surtout permis, en tout cas, ça va nous permettre, si en tout cas, toi, tu veux te lancer aussi à Zekeno plus sérieusement, c'est de pas te faire des illusions aussi sur ces choses-là. C'est pas de te dire, ouais, j'ai qu'à faire comme tout le monde, un petit post viral, nanani, nanana, et puis je vais avoir du succès comme ça. Parce que l'autre, on a l'impression qu'il a fait comme ça, et puis c'est comme ça que ça va marcher. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'autre qui a fait que c'est viral et tout, déjà, il a pas fait de domain base, tu vois. Donc, en fait, t'es pas le même public, c'est pas le même réseau où tu vas trouver ton public. Donc, il y a plein de questions à se poser, tu vois. Moi, je peux pas trop m'inspirer d'autres musiciens parce qu'il y a très peu d'autres musiciens qui font ce que je fais comme mélange. Maintenant, j'en ai trouvé à peu près, hein. Il y en a. Ça se compte sur les doigts d'une main, hein, le mélange que je fais. Donc, c'est très compliqué de trouver quelqu'un d'équivalent qui fait la même chose que moi. Bref.
Mais même en admettant que tu trouves la bonne formule, une formule qui a déjà marché d'un artiste que tu suis, par exemple, mais le truc, c'est que si toi, ton compte, il est pas, enfin, tes réseaux sociaux ne sont pas déjà bien fournis en followers et avec un algorithme riche, finalement, même si tu fais une super promotion, elle arrivera pas aux oreilles des gens.
En fonction de l'audience que tu as. Et en plus, par rapport à ce que dit Pascal, ça, c'est un autre truc que je m'étais rendu compte aussi. Effectivement, c'est que comme je disais, par exemple, d'aller regarder un artiste similaire pour voir un peu où se situe son audience, c'est des indicateurs, hein. C'est pas juste ça qui va forcément aider à faire une campagne réussie, une campagne de promotion. Mais c'est des éléments à prendre en compte, c'est des pistes. Et maintenant, le petit truc, C'est comme je dis, voilà, donc ça, effectivement, c'est quand tu trouves un artiste similaire. Mais quand t'es, effectivement, t'es dans un cas où tu fais un truc original. Et ça, c'est tout le problème aussi, tu vois, c'est que si tu fais un style de spécifique qui est très codé, etc., ou que t'as un artiste similaire, tu peux cibler son public. Donc, tu connais déjà, en quelque part, l'audience. Donc, tu augmentes tes chances. Mais quand tu fais un truc que t'as pas, enfin, quand tu fais un truc vraiment original, atypique, et qu'il n'y a pas vraiment d'artiste similaire, bah là, en fait, t'as un autre problème en plus. C'est de savoir c'est quoi ton audience au final, puisque t'as pas d'artiste de référence. Les gens qui vont aimer ma musique, ils se trouvent dans quel pays, ils ont quelle tranche d'âge. Quand tu fais un truc de nouveau, c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est déjà pas évident quand t'as déjà de te faire connaître, quand t'as déjà un style. Enfin, quand tu connais déjà l'audience que tu dois cibler, etc. Mais alors, en plus, quand tu fais un truc original, ben, c'est vraiment, tu pars dans des sentiers qui n'ont pas été battus avant, quoi. Donc,
moi, je pense, mais je peux me tromper, c'est que l'originalité, ça paye pas au début.
Oui. Ah oui, c'est sûr.
Mais ça peut-être.
Après, effectivement, à l'inverse.
Ça dépend de ton approche.
À l'inverse, effectivement, tu peux te dire que si tu fais un style déjà connu, tu vas te noyer dans 20 000 artistes qui font déjà la même chose.
Ah, c'est ça, ouais.
Donc, ça, c'est vrai. Mais moi, je parlais d'un côté purement marketing, tu vois.
Oui.
Du côté purement marketing, c'est quand même plus compliqué quand tu connais même pas ton audience. Parce que là, il faut faire peut-être des tests dans différents pays, etc. Voir ce qui marche mieux ou pas. Enfin, voilà. Et toi, tu voulais dire quoi, Zekeno?
Ce que je voulais dire, c'est que. Moi, je suis tombé sur l'interview d'un groupe de rock alsacien qui marche pas mal. Je me souviens plus du nom, malheureusement. C'est pas la musique que j'écoute, mais j'avais trouvé leur interview super intéressante. Assez jeunes, les gars. Ils doivent avoir 32 ans, mais déjà presque 10 ans de bouteille, quoi. En fait, eux, ils ont fonctionné un petit peu à l'inverse de ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire que, au lieu d'essayer de mettre leur musique en avant sur les réseaux et après de jouer leur musique, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait un show. Donc ils ont fait un album, mais avant de sortir l'album, ils ont d'abord été se proposer pour faire des petits concerts et puis des plus gros concerts, puis faire des festivals. Donc ils avaient déjà fait des festivals avant de sortir leur album. Mais en fait, ils se sont fait un public comme ça, quoi. Et donc quand leur album est sorti, ben ça a été directement un carton plein parce qu'ils avaient tourné bon, surtout en France. Mais du coup, ils avaient déjà un public solide, en fait. Ça, c'est bon pour la drum and bass, c'est un peu plus compliqué de faire, mais je pense qu'il y a des Mais pour ça, il faut faire du live, en tout cas, tu vois, c'est sûr.
Oui, tu pars de base locale et puis tu t'étends. Ça, c'est
une manière
c'est classique dans
ça.
Un groupe, oui. Ouais, après, moi, c'était pas du tout. Moi, je visais pas du tout un public local parce que ma musique, je sais que localement, elle a pas grand intérêt, quoi. Je pense pas que je vais passer dans le festival local, quoi. Sauf si, à un moment donné, ma musique va s'inscrire dans quelque chose. Je sais que. La musique que je fais s'inscrit dans la mode du synthwave et la city pop. Je sais que la city pop a pas mal de succès aussi sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup utilisée dans des vidéos, dans des trends et des choses comme ça. La synthwave, bon, bah, elle est maintenant assez établie, un peu comme la drum and bass. Hein. Elle avait un grand succès à un moment donné et puis après elle est redescendue, mais elle s'est stabilisée. Et je crois que maintenant la drum and bass revient aussi, hein, pour un côté nostalgique. Je le vois beaucoup, la nostalgie des années 90, là. Époque ou même début 2000, hein, la nostalgie PlayStation, où tous les jeux vidéo avaient de la drum and bass dans les jeux de voiture et tout ça. Et c'est un truc de fou, ça revient à fond. Hein. Il y a beaucoup de post-nostalgie que je vois passer avec de la drum and bass dedans et tout. Donc c'est cool, ça, il faut maintenant faut saisir maintenant cette opportunité, hein, de revenir là-dessus. La synthwave, c'est déjà un peu fini, cette vague, mais elle s'est imposée maintenant. T'en entends partout, hein, c'est même devenu de la synthpop. Donc maintenant, les gros artistes pop, je sais pas moi, Sabrina Carpenter?
Carpenter, ouais.
Voilà. Bon, voilà. Bah, elle fait certains de ses morceaux sont très sont inspirés de la synthwave, quoi. C'est des vieux synthés, etc. Je sais pas si elle a choisi Carpenter pour, Carpenter, hein, en hommage. Je pense pas.
Bon, voilà, David.
Toi. Exactement. Carpenter Brut, ça, je sais qu'ils l'ont pris pour ça, le nom. Mais ça, c'est un groupe synthwave, c'est encore différent. Mais voilà, il faut. Moi, j'ai tout de suite abordé le marché international parce que je sais que localement, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais effectivement, l'aborder du côté local et puis régional et puis après national, oui, c'est un super levier aussi, quoi. Par contre, c'est beaucoup plus de live. Hein. Là, c'est beaucoup plus. J'ai aussi vu beaucoup de bandes qui ont commencé à faire ça et puis qui ont fait un, deux ou trois ans et puis se sont épuisés, ils ont arrêté, quoi. Parce que c'est beaucoup d'efforts pour peu de retours, en fait. Enfin, tu peux pas en vivre des masses, quoi. Tu vis de la SACEM, peut-être. Tu vis vite fait des cachets. Mais en fait, tu dois mettre ta vie familiale en pause parce que t'es beaucoup en tournée. C'est limite 2 ou 3 ans d'année sabbatique. Et puis après, c'est pas que t'abandonnes, mais tu sais que tu peux pas en vivre. Tu peux pas voyager avec ta famille non plus. C'est compliqué. Mais voilà. Je sais pas si vous avez, vous, des expériences là-dessus ou des amis qui ont fait ça.
Non, pas vraiment. dans mes amis, perso, il y a que moi qui essaie de me professionnaliser dedans. Donc, je n'ai pas d'exemple, malheureusement.
Mais moi, pareil, dans mon entourage proche, en fait, c'est beaucoup des gens qui sont passionnés par la musique, mais qui n'ont pas du tout l'espoir d'en vivre, quoi.
Ouais. Clairement. Bon, pour en revenir sur la promo, du coup, moi, de mon côté, je suis plus maintenant en train de... j'ai délégué, je commence à déléguer, donc j'ai pris un professionnel dans ce domaine-là qui va me gérer le contenu, qui va me gérer la promo, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Mais j'avais fait faire des devis sur plusieurs agences. Ce que j'avais remarqué, c'est que les agences un peu établies, qui, je pense, ont beaucoup plus à faire avec des labels, ils étaient un peu à la rue au niveau des réseaux sociaux. Ils étaient encore très ancrés. J'en ai contacté deux. Hein. Une grosse qui était plus internationale et une qui était plus française, mais qui touchait à l'international aussi et qui couvrait des grands noms. Hein. Ils couvraient des gros artistes. Hein. Et en fait, eux, ils avaient plus des côtés radio, télé, ce genre de choses. Voilà. Et en plus, ils te faisaient pas un package tout en un. Tu veux de la télé, tu veux de la radio, tu veux du internet, tu veux du ci, tu veux de ça. Il fallait tout payer séparément et ça devenait ultra cher, quoi. Donc, impayable pour un artiste indépendant. Et puis, moi, j'ai jeté mon dévolu plus sur un freelance. Et lui te fait tout sur mesure. Et au final, j'ai recontacté les agences en question un an et demi plus tard, là. Et je vois qu'ils ont proposé tous la même chose maintenant, c'est-à-dire des pactes compris pour un prix assez raisonnable. Quand je les ai contactés, j'ai dit « Ah, c'est bizarre, maintenant, vous proposez ça l'année dernière, vous me preniez pour un... Enfin, limite, vous me mettiez de côté parce que je demandais ça, quoi. » Et puis, ils disent « Ouais, on a eu trop de demandes. » Je fais « Ok, super. » Donc, bon, ils étaient un peu à la rue, mais maintenant, ils se sont mis au diapason de ce qu'a besoin un artiste, c'est-à-dire pas non plus un budget trop important, on va dire en dessous des 1000 euros, quoi. Par mois, parce que finalement, la musique paye tellement peu que retour sur investissement, faut s'accrocher. Moi, je vois ça plus comme un investissement, parce que même Spotify, pour moi, ça rapporte rien. Et beaucoup d'avis vont nous dire, en fait, Spotify, il faut plus le prendre comme une plateforme de promotion, comme SoundCloud aussi, hein. C'est une plateforme de promotion. Tu mets ta musique, tu vas en tirer quelques royalties, mais c'est pour le principe. Et c'est pour être écouté parce qu'il y a un aspect pratique à être écouté. Par contre, là où tu vas te faire ton blé, ça va plus pour, une fois que tu auras engrangé des fans, des vrais followers, des vrais gens qui vont te soutenir et qui vont aimer ta musique et qui vont attendre avec impatience ta dernière sortie, eux, ils vont peut-être te soutenir, ne serait-ce par des dons, par l'achat sur Bandcamp, par des t-shirts, par te suivre quand tu vas faire des tournées. Toi, Azekeno, quand tu vas mixer, tu vas créer l'événement et ramener du monde avec toi, peut-être, tu vois. C'est ça un peu ce que je pense que tu attends aussi.
C'est un peu ma stratégie. Et moi, je monétise pas ma musique pour le moment. Déjà, parce que c'est beaucoup de démarches pour aller peut-être gagner 5-10 balles.
m'en fous. Concrètement, 5-10 balles, effectivement, ouais. T'as pas tort.
mais moi, c'est vraiment ma stratégie. C'est d'essayer de forger une communauté qui aime ma musique, quoi. Après, mais déjà, ne fût-ce que demander des cachets corrects pour... Pour être booké en soirée. Et moi, j'ai été aussi dans ma prime jeunesse organisateur de soirée. Donc, je sais aussi que quand t'es organisateur de soirée, t'as pas spécialement envie de donner ta chance à des non-names parce que t'as besoin que ta soirée elle soit rentable, en fait. T'es obligé de faire ton affiche pour ramener du monde. Alors, je pense qu'il y a quand même deux façons d'aborder l'organisation de soirée. C'est où t'as un lieu qui fonctionne. Ouais. Et tu sais que t'as ton public et à ce moment-là, c'est intéressant de trouver des jeunes talents qui vont proposer quelque chose de sympa.
Et qui vont coûter que dalle aussi, surtout.
Qui vont coûter que dalle. Mais en fait, là, à ce moment-là, ça va être aussi le club qui boucle l'artiste, qui le met en avant. Finalement, ça fait de l'expérience de jouer devant beaucoup de monde, etc. Donc, il faut aussi relativiser là-dessus. Par contre, quand c'est des jeunes structures, et qui veulent amener du monde, appâter du monde avec l'affiche, ben à ce moment-là, tu peux pas vraiment...
Je te donne un autre exemple. Là, il y a eu un festival près de chez moi. Bon, c'est de la musique pop, rock, des choses comme ça. Hein. Mais ils sont perdus au milieu de la montagne. Eux, et là, d'ailleurs, j'ai regardé leur affiche pour voir, je veux voir s'il y a peut-être des petits artistes qui sont passés, des petits artistes suisses, tu vois, près de chez moi. Aucun artiste inconnu. Et que des artistes établis. Et je pense que leur stratégie, c'est si je mets pas que des artistes établis, dans mon trou paumé, il y a personne qui va venir. C'est trop loin ou c'est trop isolé, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là, c'est soit t'es à Paris et puis tu peux te permettre des risques d'avoir des petites affiches ou des petits trucs, ou soit t'es au trou de cul du monde, mais là, t'es obligé d'attirer le chaland, quoi. Sinon, tu remplis pas ton
festival. Bah, tu peux aussi faire, festival. Parce qu'il y a aussi des noms qui pourraient, ouais. Juste un nom pourrait faire en sorte oui. que ce festival soit rempli, sauf que là, le cachet
Il y a l'exemple à Belfort, il y a les Eurocaines à Belfort. Bah, les Eurocaines, eux, ils se permettent d'avoir des inconnus. Je pense que c'est 60% d'inconnus, VS, le reste, c'est à peu près des connus, et une ou deux grosses têtes d'affiche par jour, c'est trois jours. À l'époque, c'était beaucoup plus d'artistes connus, il y avait, je sais pas, une dizaine d'artistes connus par jour. Maintenant, ils en font plus que trois ou quatre des artistes connus par jour. Et tout le reste, c'est du no-name, quoi. C'est du... Voilà. Mais eux, ils s'en foutent, ils sont à Belfort, c'est ultra accessible, il y a l'Alsace à côté, enfin, tu connais les Europes.
Ouais, et puis oui, c'est voilà. Plutôt connu comme festival. J'y suis jamais allé, mais c'est quand même bien réputé. Ouais. Mais après, eux, ils sont en place, en fait. Ils savent que...
Ils sont en place, tout le monde peut... Enfin, il y a la Suisse, la France, il y a tout le monde qui vient, enfin, c'est tout le temps plein. Ça, c'est bon, ils n'ont aucun problème.
C'est aussi possible... que le public qui fréquente les Eurocaennes est un public qui est un peu plus friand de nouveautés plutôt que d'aller voir des trucs
qui
sont déjà partout. Quoi.
Alors, oui et non, c'est que moi, ce que j'entends avec les années, moi, j'y allais beaucoup quand j'étais jeune. Putain, il y avait Radiohead, R, je sais pas, Chemical Brothers, enfin, que des grosses têtes d'affiches tout le temps, quoi. Il y avait même les Daft Punk. Putain, les Daft Punk qui étaient, quoi.
Enfin, voilà. Tu les as vus?
Ouais, non, malheureusement, j'étais dommage. Pas. Je me suis dit, je vais les voir l'année d'après. Le truc, regret, instant regret, quoi.
Bien essayé.
Ah oui, non, c'est clairement, quoi. Le gars, ils font trois concerts dans leur vie, quoi. C'est, voilà, et tu vas pas, quoi. Bref, et en fait, j'y allais beaucoup à l'époque parce qu'il y avait des têtes d'affiches de malades. Et pas genre des groupes qui étaient pas connus, mais qui le sont. Non, ils étaient déjà très connus, quoi. Et puis, en fait, et je vois ça avec tout mon entourage aussi, hein. C'est, en fait, on y va de moins en moins, et même les jeunes, hein, parce que je dis pas seulement de mon âge, c'est qu'en fait, juste, t'as un artiste, tu vas pour Asdes, tu vas pour un truc comme ça, puis après, le reste, c'est... En fait, ça devient pitoyable, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pitoyable, je dis ça, pas ça pour les autres artistes, désolé pour ceux qui nous écouteront, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu vas dans un festival, c'est aussi... T'as pas juste envie d'y aller, et que t'as un coup sûr qui va te plaire, quoi. Je veux dire, tu investis quand même du temps. Sinon, tu vas voir le concert du gars. Tu vas voir le concert d'Asdes et puis c'est tout. Enfin, tu vas aller spécifiquement à son concert qu'il fait et qu'il boucle lui-même, tu vois. Je veux dire, un festival, il faut quand même un peu de tête d'affiche, quoi. Sinon, et c'est malheureux pour les artistes eux-mêmes parce que moi, je le voyais. Les gens, ils venaient pour voir leur groupe mythique et puis tous les autres artistes, ils les huaient, quoi. Ça, je trouvais ça dégueu. Bon, c'est dégueu, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est pas top pour les artistes qui ont l'effort d'aller à ce festival, etc. Bref. Donc, moi, je me méfie un peu de ces festivals. Enfin, bref. En tout cas, c'est ce que je voyais, moi, c'est que les festivals dans le trou de balle du monde, ils font plus d'efforts. Il faut qu'ils attirent le chaland, bien sûr. Plutôt que les festivals établis, comme tu dis.
Oui et non. J'ai un exemple d'un festival en Belgique, c'est le Ronquière Festival. Ben, en fait, eux, Ronquière, c'est vraiment un petit bled paumé. Bon, après, en Belgique, rien n'est loin, mais c'est la campagne totale. Bon, après, c'est les festivals en général, c'est quand même mieux quand il y a de la place, on va pas se mentir. Mais du coup, ils ont commencé de manière organique. Ils commençaient genre avec une ou deux têtes d'affiche, et puis c'était beaucoup des artistes pas voire moyennement connus. Et finalement, ça a pris tellement d'ampleur que maintenant, ben c'est devenu un des incontournables des festivals belges. Donc il y a un peu de manière aussi d'aborder les choses.
Oui,
dépend, je pense, ça dépend du budget que tu es capable de mettre, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ok, En tout cas, moi, je vais pas dans les festivals de sitôt, hein. Ne serait-ce, je sais toujours pas comment jouer ma musique en live. Donc,
c'est un exercice, alors peut-être que tu trouves ta propre méthode.
Ouais. Bon, je suis en train. Je regarde un petit peu. J'ai essayé le DJing, mais
après, possible que toi, la synthwave, ça soit pas vraiment adapté au DJing aussi, quoi.
Bah, c'est bizarre parce que. Ouais, bah c'est ça. En fait, j'ai vu je suis allé voir beaucoup de concerts. Je suis allé voir Carpenter Brut quand ils étaient pas encore si connus que ça, Perturbator aussi, etc. Et ce qui m'a choqué, j'ai vu comment il s'appelle, Kavinsky aussi, et d'autres artistes de ce type-là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, ce qui marche le mieux, c'était quand c'était conceptualisé. C'était pas une musique où tu vas adapter. En fait, ton truc, il est limite conceptualisé comme un film, tu vois. T'as un début, un milieu, une fin. Et Carpenter Brut, c'est ce qu'ils faisaient. Eux, carrément, ils avaient un projecteur derrière et ils ont. Tous leurs morceaux avaient un clip et c'était un mini-film de Carpenter, finalement.
Mais c'est ça que j'allais te dire, en fait. Enfin, de ce que j'ai compris, quand toi tu parles de jouer en live, tu prends ça sous finalement l'aspect de la performance. Donc tu as commencé le DJing, tu t'as trouvé que ça te convenait pas, et là tu essayes de jammer. Mais en fait, juste un contrôleur, un launchpad et ton dos,
c'est ça.
Et tu peux jouer. Et en fait, vu que tu abordes déjà toi-même ta production musicale de cette manière-là, plutôt que de penser performance, tu pourrais aussi aborder le truc en essayant de construire une histoire d'une heure, finalement, tu vois. Et je pense que ça t'ouvrirait d'autres perspectives, finalement.
Ouais. Alors, ma musique est déjà conceptualisée dans un thème, tu vois. Après, chaque morceau, je ne les fais pas en pensant comment l'enchaîner avec l'autre, tu vois. Mais plutôt de ce que je ressens sur le moment et de ce que j'ai envie de transmettre sur le morceau. Bref. Donc, à voir s'ils collent bien ensemble, mais ils ont, comme par exemple l'EP de cette année, ça sera un thème très dans le Japon. Donc, oui, là, tu peux faire un concept. Par contre, j'ai pas encore un album. Un EP, ça permet pas de faire non plus un live foufou.
Donc, non, mais même si tu avais un album, bon, ça aide. Tu as déjà ta structure, mais je pense que tu te dois. Enfin, bon, ça, c'est ma rigueur personnelle qui me fait dire ça, tu vois, mais tu te dois de faire plus que juste jouer ton album avec des transitions un peu chiadées, quoi. Faut essayer de proposer quand même quelque chose d'original. Suffit de voir Daft Punk, leur set live, là, Alive. Bon, ils avaient leur album, ils ont joué leur track, mais finalement, ce que t'entends là, c'est super original comme truc, quoi.
Ils ont fait beaucoup de mash-up entre leurs propres morceaux, etc. Je trouvais c'était vraiment vraiment bien, quoi. Après, ils étaient deux, hein. Donc il y a moins de boulot. C'est sûr. Non, mais à voir. Moi aussi, je pense un petit peu à terme, je pense mes morceaux aussi, parce qu'ils sont très proches de la pop aussi dans leur structure, etc. Et ils pourraient très facilement être joués à plusieurs, en fait, tu vois, comme le fait The Midnight. C'est un groupe de synthwave, mais en fait c'est un groupe de, tu vois, avec un batteur, un bassiste, un clavier, une chanteuse, etc. En fait, c'est un groupe de pop qui fait de la synthwave. Et ça marche très bien et c'est très cool. Donc, peut-être à terme, alors je vais essayer quand même de le jouer par moi-même et de faire mon set avec un launchpad, etc. Il n'y a pas de souci, je m'entraîne dessus. Mais à terme, je vais voir si je partage la performance live avec d'autres musiciens, tu vois. Ça pourrait être intéressant.
Clairement intéressant, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Chasen Status.
Oui, bien sûr. Il est dans la playlist Overdrive, Electro Overdrive, si tu veux.
Ben voilà. Mais du coup, bon, ils sont deux, donc c'est il au pluriel. Mais eux, c'est des DJ. Normalement, quand ils allaient en live, c'est des DJ. Mais là, dernièrement, ils ont fait un stade, je ne sais plus où, en Angleterre. Ben, du coup, ils l'ont fait en live. Ils ont jamais leur truc sur des synthés. Il y avait un batteur, il y avait des MC. C'est un concert, quoi. Et franchement, le rendu est vraiment super, hein.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, regarde comme Deep Forest qui, pour sa tournée, a embauché un bassiste.
Un bassiste, ouais, ou des instruments style flûte, je sais plus quoi.
Une petite guitare avec la synthwave, ça irait bien. Hein.
Bah, il y a ça. Moi, j'ai vu, par exemple, est-ce que c'était. Je crois que c'était Carpenter Brut. Carpenter Brut, bah, ils avaient un batteur. Alors, bon, Carpenter Brut, c'est un peu violent, hein. Les BPM sont assez élevés. Bah, ils ont pris un batteur de métal. Hein. Rien à foutre. Et puis le gars, torse poil, il était en sueur pendant tout le truc parce que tu sais, c'est soutenu, hein, c'est quand même de l'électro où ça s'arrête pas. Et c'était très intéressant. Et alors, il y avait ce bruit de batterie, mais je pense que la batterie était soutenue par de l'électro aussi. Donc en fait, il avait des pads un petit peu aussi. Il avait des toms et des caisses claires et tout. mais je crois qu'il avait aussi des pads numériques. Et donc, pour certains sons typiques synthwave, il tapait sur le pad avec, quoi. Et c'était ultra violent et c'était très, très cool, quoi. Et c'est ça qui m'avait plu dans la performance live. C'est pas juste de réécouter la même musique que t'as déjà entendu mille fois dans ton casque, mais c'est de l'avoir joué en live avec, en plus, une subtilité que le batteur n'a pas participé à l'album, mais l'a joué en live avec sa propre touche de batteur, tu vois. Donc, il rajoute des subtilités que toi, tu fais pas avec ta boîte à rythme, quoi. Voilà. Et après vient le grand pape de la synthwave qui est Kavinsky, que tu vas voir en live en te disant il va faire un super mix live, set live, etc. Et il vient avec sa clope au bec sur sa platine, ses DJ, et il passe que de la musique de boîte de nuit. Et limite, tout le public a dû gueuler pour qu'il passe une de ses tracks, quoi. Ça, c'est Kavinsky. Dégoûté du gars, hein, dégoûté.
Moi, je me souviens que t'avais pas une belle expérience.
Ah non, non, c'était ma pire expérience de concert live. C'est pas un concert live, c'était un DJ set, mais c'était pas du tout écrit sur l'affiche. Et le gars, mais zéro effort, quoi.
C'est vrai que tu t'attendais à le voir en tant qu'artiste et pas en tant que DJ, quoi.
Ça, et ça, en fait, ouais. Et le pire, c'est qu'il avait deux autres DJ qui passaient avant lui en soi-disant warm-up, mais en fait, ils étaient meilleurs que lui, quoi. Donc, ouais. Putain, dégoûté, c'est, quoi.
C'est encore plus triste que... Enfin, quand tu vas voir un concert, en général, c'est pour te recharger les batteries, parce que quand tu vois vraiment un artiste, ou des artistes, un groupe, peu importe, mais qui se défonce sur scène, l'énergie qui est véhiculée, elle est juste incroyable, quoi.
Eh oui, et puis, il y a autre chose, il y a, je sais pas, moi, je trouve tu deviens beaucoup plus vite fan en le voyant en live. Enfin, ça, c'est un classique, mais je veux dire, tu le vois en live. Quand je réécoute le morceau après dans mon casque, le fameux morceau remasterisé et aseptisé, en fait, t'as encore l'image du live, tu vois, dans ta tête, voire même ton cerveau, il va réinterpréter le live alors que t'écoutes la version studio, tu vois. C'est assez fou, quoi, je trouve. Et ça, j'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin, quand je suis fan d'un gars, de le voir en live. Je fais...
t'as une énergie, quoi.
Ouais.
Après, le truc, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'ai des artistes que j'ai été voir en live, j'adorais leur album, et en live, j'ai trouvé ça nul. Et inversement, des artistes que je pense à Demi Portion, donc un rappeur français. Bon, j'ai toujours trouvé que c'était un rappeur qualitatif, mais sa musique me parlait pas spécialement, quoi. C'était pas ma vibes. Par contre, je me suis retrouvé à son concert mais quel concert incroyable, quoi. C'était vraiment dingue.
Je crois que c'est comme pour le reste, tu vois. T'as deux casquettes différentes. T'as le côté compositeur et t'as le côté performeur. Tu peux être un compositeur de génie et être un mauvais performeur, comme tu peux être un performeur excellent, pas être top au niveau de la composition. Donc, ça dépend aussi un peu. Des fois, ça dépend des performances en elles-mêmes aussi. Hein. Je vais prendre Marilyn Manson, que j'ai été voir plusieurs fois. T'as des fois, il était complètement déchiré. C'était ignoble. Puis après, t'as d'autres fois où le mec, c'était juste...
C'est incroyable.
Incroyable. Donc, tu vois, des fois, ça dépend aussi de la performance en elle-même. Hein. Il suffit que t'as un mauvais jour. Après, quand t'es lessivé, quand t'es rincé après une tournée, je sais pas, quoi, tu vois.
Bon, après, c'est particulier parce que la scène un peu grunge de cette époque-là, en fait, t'allais là-bas pour les voir défoncer aussi.
Des fois,
t'es content. J'ai vu Marilyn Manson, il tuait un porc sur scène, il sniffait de la coke. C'était ça l'histoire que tu voulais ramener avec, tu vois. Et il se donnait ce genre même, tu vois.
Mais pour rebondir sur ce que dit Linvi, moi, les artistes que j'ai vus le plus de fois, c'est le Seyen Supakru, je les ai vus trois fois. Quand j'étais gamin, j'étais ultra fan et ils étaient réputés bons en live, quoi. Donc la première fois que j'ai été les voir, c'était pour la tournée qu'ils ont fait sur leur dernier album. Et c'est pas leur meilleur album. Et donc, le premier concert que j'ai vu, c'était un concert très axé dernier album. Ils ont fait toutes les tracks et beaucoup moins des anciennes. Ça m'a pas fait vibrer outre mesure. J'avais passé une bonne soirée, mais voilà, quoi. Par contre, ils ont fait leur tournée et puis sur le retour, ils sont repassés à Bruxelles. On a été relais voir. Et là, ça a été une dinguerie monumentale. Et puis, ici, ils se sont reformés pour faire le Seyen Supakru Célébration pour les 20 ans du premier album. Et pareil, quoi, c'est une immense gifle, mais de bonheur, quoi.
Moi, un des concerts, alors vous connaissez forcément, et vous allez me donner, avant que je vous donne mon ressenti et mon histoire, votre avis sur la personne, c'est Skrillex. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, comme ça, si je vous le dis?
Moi, du positif. Il a fait ce qu'il a fait, hein, donc... Ouais.
Et toi,
j'ai pas d'autres.
Mais moi, Skrillex, à savoir que quand sa musique elle est sortie, les premières tracks qu'il a sorties, moi j'étais j'ai trouvé ça ouf. Il a vraiment amené sa patte au style, quoi. Après, en fait, il a tellement déchiré que c'est devenu mainstream et que après, il y a eu des petites dérives. Et c'est souvent pour ça que les gens l'aiment pas. C'est parce que, c'est parce que il a été trop mainstream, entre guillemets. Alors que, ben, pas du tout, finalement, tu vois. Et en moi, fait, je trouve que c'est un artiste de génie, quoi.
C'est très particulier parce que quand il est sorti, bah, déjà, c'était de la musique, c'est comme maintenant le speed up, tu vois. Va comprendre le speed up, quoi. C'est la musique, c'est accéléré, tu sais. Enfin, bref. Et quand il a sorti son truc, bah, tout le monde se foutait de sa gueule parce que c'était du son, tu sais, c'est comme... Enfin, c'était des trucs... C'est limite une tondeuse à gazon passée en accéléré. En fait, tu comprenais pas le son qu'il faisait. Et c'était pas forcément quelque chose qu'on entendait beaucoup, en tout cas dans la musique mainstream, mais ça a été très vite adopté par les jeunes générations, etc. Et moi, j'étais pas convaincu par sa musique, parce que j'étais... Pourtant, j'étais très Prodigy, etc. Bon, maintenant, c'est très mainstream aussi, tu me diras Prodigy, mais c'était très musique quand même assez... Ça gueule beaucoup, c'est très punk, enfin voilà, punk électro, etc. Métal.
Génial, tu peux le dire.
Voilà, ouais, c'est les meilleurs, voilà, c'est les meilleurs du monde. Bon, bref, non, je déconne.
Moi, je les ai vus en live, c'était...
moi
live.
Aussi, et j'étais front row. Je peux te dire que j'ai galéré, mais j'étais premier rang dans une fosse. Donc, c'était
Moi, bref. Je les ai vus au Werchter Festival. Je crois que c'est la plus grosse basse que je me suis pris dans la gueule. Le sound system, il était magistral.
Et moi, c'était genre front row avec ma femme. Moi, j'ai passé un bon moment, pas ma femme. Mais non, si, c'était cool. Bref, et ultra mainstream. Enfin, c'est déjà devenu très mainstream. Skrillex, et en plus, tu sais, il y avait même des publicités qui utilisaient la musique de Skrillex. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque.
Mais c'est passé partout. Ouais.
Ultra fulgurant et en même temps dérangeant. Quoi, parce que là, c'est quoi ce son? Il ne veut rien dire, il est déstructuré, etc.
Et ouais, moi, je n'ai jamais trouvé ça déstructuré, mais je comprends.
Oui, je sais, parce que tu es dans ce. Dans la drum and bass. Ouais, voilà.
Mais en fait, lui, il est arrivé avec de la dubstep beaucoup plus mélodique, en fait. Les gars de la dubstep, ils l'ont détesté pour ça parce que oui. C'était pas de la dubstep pour eux finalement.
Ouais, il y avait de ça. Il n'était pas accepté par son propre genre et ceux qui connaissaient même pas le genre, ils se disaient mais d'où ça vient, genre.
Ouais.
Ça existait pas avant. Mais en fait, si, ça existait, sauf que c'était une niche et puis voilà. Il a pris la niche, il a explosé et puis.
Ah, il l'a retourné.
Et puis tout le monde a dû faire du Skrillex après. Sinon, ils existaient pas, tu vois.
Bah, il a créé un genre, ouais.
Exactement. Et moi, j'étais pas, parce que j'étais très dans l'électro, mais trop sage, même si j'écoutais du Prodigy qui était déjà beaucoup plus sage aussi.
Ouais, c'était pas très sage, Prodigy.
Et je me dis, ok, je veux quand même. J'avais un billet pour aller voir, mais c'était pas forcément lui que je venais voir, c'était un autre groupe. Et je vois et je me souviens parce que quelqu'un m'avait fait un mauvais plan, donc je suis allé tout seul en fait à ce concert. Et je suis arrivé dans la salle, je me suis mis dans un gradin, j'étais pas dans la fosse cette fois-ci parce que je m'en foutais, je me suis mis dans un gradin plus haut. Mais j'avais personne devant moi, j'étais tout seul. Donc, il y avait des gens derrière moi, etc. Mais j'étais dans un gradin bien positionné, je voyais toute la scène. J'aime bien voir ce qui se passe, j'aime bien voir le DJ quand il travaille, j'aime bien voir les détails, tu vois. C'est une des meilleures expériences que j'ai eues dans ma vie. J'ai une vibe de fou. Chaque drop, putain, tu vibrais. Et tu vas, tu sais, t'as cette espèce de vague avec les mains que tu fais en avant, comme ça, comme un headbang, mais avec les mains. T'avais une vague constante sur la foule et tu pouvais pas t'empêcher de faire la même chose. Alors que j'étais même pas dans la foule, j'étais dans les gradins. Oh, un truc de fou. Et le show était énergique. Le gars, il avait une énergie ultra transmissible. J'ai jamais vu un truc comme ça. Franchement, je suis sorti de là, j'ai dévoré ses albums et j'ai adoré. Bon, maintenant, un peu moins.
En train de nous dire que c'est mieux que Kavinsky, c'est ça?
Non, parce que tu vois, maintenant je fais de la synthwave quand même. Je suis revenu à mes amours. Mais je crois qu'à l'époque, j'écoutais plus la synthwave qui est beaucoup plus sage, etc. Et pour moi, Skrillex, c'était pas une aberration, mais c'était un truc. Ça sort d'où cette musique de Jones? Tu vois, je devais avoir la trentaine, mais tu vois, en fait, on est tous un peu formatés par nos musiques de quand on a de nos adolescences et la vingtaine. Et je crois qu'il y avait une étude qui était sortie là-dessus qui disait, en fait, sorti de cette période-là, en général, tu restes beaucoup dans ce carcan-là, tu vois. Si t'as aimé le rock quand t'étais jeune, tu restes dans le rock. T'as aimé l'électro, tu restes dans l'électro, etc. Et très rare les gens qui sortent de ce carcan.
Parce que c'est parce que j'ai vu aussi quand je faisais le DJ événementiel. Bon, après, je vais pas faire une généralité sur ce que j'ai vu, mais
c'est vrai que c'était plutôt public hermétique à tout ce qui était nouveau. C'était vrai, remets-nous des musiques des années 80, et puis voilà.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Ou la musique roumaine, hein, c'était quoi?
Oui.
Bah oui, t'es roumain, tu veux de la musique roumaine, t'es mexicain, tu veux de la musique. Enfin, tu vois, l'idée,
c'est
ça. Même
au-delà de ça, parce que là, Linvy, ce qu'il dit, c'est plus des gens qui sont pas spécialement fans de musique, qui veulent écouter du Patrick Sébastien ou des trucs potaches comme ça, tu vois. Enfin, peu importe l'ambiance, quoi. Mais après, même si t'es fan de musique, comme toi, PK, c'est que bah, des fois, t'entends des trucs, mais t'es pas encore prêt à les apprécier, quoi.
Ouais.
Et puis, tu vas les réécouter 5-6 ans plus tard et tu vas te dire, mais c'est quoi cette dinguerie monumentale?
Moi, aussi le fait juste que d'être dans le bon public ou pas, hein, parce qu'il y a peut-être des trucs, on va être plus frileux, comme moi, j'aime un peu moins le rap, par exemple, etc. Je crois qu'on a tous nos préférences aussi, donc il y a ça aussi, simplement.
Ouais. Moi, j'ai besoin d'être convaincu par l'artiste lui-même pendant un show. Et c'est pour ça que quand je prépare maintenant, je me prépare mentalement à me dire, je vais faire un show avec ma musique à un moment donné. Bah, j'ai aussi envie d'être dans cette position. Je vais convaincre les gens de se dire, regarde, je viens sur scène, c'est pas juste pour fumer une clope et faire play.
Et prendre mon café.
Si je fais play, bah, et c'est là où toi, Azekeno, tu m'as convaincu. Il faut pas juste faire play et faire des transitions, mais il faut y aller avec du mashup, faut y aller avec quelque chose, faut y aller peut-être, fais ta platine, mais fais un peu de synthé à côté, fais un truc. Faut faire de l'original, faut convaincre le gars.
Faut amener une plus-value, quoi.
Voilà.
C'est que moi j'aime bien voir Paul Kalkbrenner avant même que je faisais de la musique électronique. C'est que Paul Kalkbrenner, il est connu dans le milieu. Je sais plus encore qui disait ça. C'est que bon, Paul Kalkbrenner, c'est vraiment celui qui improvise à 100% et qui fait même pas de cette de preset ni rien. Et putain, tu vas voir des concerts, il fait des match-up entre ses morceaux, mais un concert n'est pas l'autre, quoi. Ce qu'il refait des match-up avec ses propres morceaux et c'est pas les mêmes à chaque fois, quoi. C'est vraiment, il improvise et c'est ouf, quoi.
C'est
effectivement, t'as une plus-value parce que tu redécouvres les morceaux et c'est pas juste une réinterprétation, quoi.
C'est donc, tu vois, je me prépare aussi mentalement à me dire, je veux pas juste, vous êtes là pour écouter mon morceau comme il est nickel sur l'album tout plat, ou vous voulez vraiment écouter un truc original où je reprends mes morceaux, mais peut-être d'autres aussi que vous avez jamais entendus, ou les rallonger, ou faire autre chose avec. Enfin, voilà, tu vois, c'est ça. Donc, je vais encore voir comment je vais faire ça, mais bon. Je pense que c'est quand même quelque chose à creuser, quoi. Enfin bon.
Bah, il faut y réfléchir, en tout cas. Il faut que tu trouves ta formule. Et puis, une fois que tu auras trouvé ce qui te fait envie, ça sera beaucoup plus facile de trouver les solutions, finalement.
Toi, Linvy, est-ce que tu avais une expérience de live la plus emblématique que tu peux nous sortir, comme ça, celle qui t'a vraiment ému, quoi,
et
qui t'a
C'est pour Kalkbrenner. Ouais, j'ai été le voir 4-5 fois. Hein.
D'accord.
Je suis tellement fan de lui, et à la base, idéalement, c'était un peu ce que j'aurais aimé faire, un peu la musique comme lui d'ailleurs. Mais bon,
c'est ce que tu vas faire. Ça, c'est le mindset. Voilà. Il faut te mettre le mindset et y arriver.
Ouais, c'est pas aussi simple que ça.
Hein. Ouais, je m'en doute.
Mais c'est lui. Mais c'est clairement. Bon, après, j'ai été voir plein de groupes. J'ai aussi une bonne culture rock sur le côté. Mais c'est Paul Kalkbrenner. Il fait vraiment de l'improvisation en live. Et c'est sympa, quoi. Ça change des. Et lui-même, il sait pas ce qu'il va jouer, quoi. Donc, la dernière fois que j'ai été le voir, par exemple, il était, j'ai oublié, il était à un gros festival de Belgique. Et en fait, il était pas sur la scène principale pour une fois, il était sur la scène secondaire et t'avais un truc qui jouait sur la scène principale en même temps. Et ça sonnait beaucoup trop fort, il avait poussé le truc. En fait, en plein milieu du concert, le son, il a commencé à augmenter de la main stage.
Mm-hmm.
Alors que, et du coup, ça empiétait. Ça empiétait tellement que ça allait fort. Et du coup, tu voyais bien, parce que lui, il était dans un mode parti sur un truc vachement chill, etc. Puis tu voyais bien, il arrêtait pas de faire des signes vers la main stage. En gros, tu comprenais que ça le cassait les couilles. Et puis après, tu vois, il a fait ça, il était en train de faire son truc. Et en attendant un peu, 5-10 minutes que ça passe toujours pas. Puis après, graduellement, il est monté en puissance. Et tu voyais bien qu'il était parti sur un truc vénère. Tu voyais bien qu'il était pas du tout parti sur un truc comme ça au début. Et puis là, il faisait des signes vers la main stage en montant. Et vous voyez, moi aussi, je peux faire du vénère. Hein. En mettant la musique à fond, etc. C'était vachement énergique. Mais ça, c'est vraiment de la pure impro, quoi. Parce que il aurait pas su retomber comme ça avec son set préfet ou je sais pas quoi. Il aurait pas su. Et alors, il aurait joué un truc tout calme alors qu'on se faisait bouffer par, je sais plus ce que c'était. C'était par la musique super vénère derrière. Donc, c'est, génial, quoi. Okay. Comme quoi, faut savoir improviser aussi. C'est là que tu vois l'expérience que t'as dans ce genre de truc-là, quoi. Et c'est pas comme tu dis, c'est pas de venir faire juste avec tes platines bêtement ou faire un set préfet.
Si tu fais de l'improvisation totale, bah, c'est un peu risqué, tu peux te planter, mais tu peux faire des trucs super créatifs sur le moment aussi, quoi.
Alors moi, j'aurais jamais la prétention de pouvoir faire ça dès le début. Je pense que c'est les gars, il a tourné depuis belle lurette et puis il a le skill et puis il fait ça.
Oh oui. Voilà. Et puis il fait ça avec ses tracks. Mais voilà. Ça, c'est aussi deux approches. Hein. Genre moi, j'ai été voir Borgor en festival. Son set, il était millimétré, préparé. C'était une tuerie. Par contre, bah, il rejouait deux semaines plus tard en Belgique. Bah, il a fait exactement le même set. En fait, là,
c'est toute la tournée, ouais.
Ça vaut pas le coup d'aller le voir deux fois, quoi.
Bah, c'est le problème. Bah, c'est deux écoles. Après, c'est ce que dit Mao, c'est aussi de justifier comme à d'autres. C'est que les gens, des fois, ils viennent pour l'expérience. Et il y en a un qui adore. Bon, même si le set, il est un peu préparé. Bah, après, t'as tous les effets pyrotechniques qui sont synchronisés avec, etc. C'est une autre expérience, quoi. Donc, voilà, t'en as qui, enfin, je vais pas de rentrer dans ce débat-là. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Tu vois, parce qu'il y en a qui disent, ouais, cette préfet, c'est de la triche. Mais du coup, il y a vachement plus de préparation en amont avec les effets pyrotechniques et d'autres trucs. Et puis après, t'en as, bah, comme Paul Kalkbrenner, bon, bah, lui, il dit, voilà, j'y vais en mode impro, quoi. Mais, bon, après, il a comme son setup qui est fait et tout. Hein, je veux dire, il a comme.
Il faut être costaud hein, pour faire du live avec tes instruments tout seul. Mais, j'entends. C'est
mais voilà, quoi. C'est deux approches différentes, quoi. Et puis, tant que le public, il passe un bon moment au final, tu vois. Parce que si tu fais un preset, que ce soit les deux, que ce soit un preset ou que ce soit en impro, si tu fais de la merde, ben, les gens, ils seront pas contents. Ce qui compte, c'est que les gens soient contents. Donc après, derrière, est-ce que c'est un preset ou pas? Après, ça peut être.
Ça te dit.
Voilà, ça peut être. Regarde, si t'es pas. Regarde, par exemple, Didmos, c'est ce qu'il dit. Moi, je comprends, parce qu'il a toujours été là-dessus. Bon, après, je sais bien qu'il est un peu viral, donc les gens, ils ont peut-être des avis mitigés sur lui maintenant. Mais bon, moi, c'est un mec que je continue à respecter quand même pas mal. Même si je suis pas spécialement fan de sa musique, mais en tant que producteur, je respecte. Il disait, moi, je suis un ingé son. Je suis pas un DJ, j'ai jamais voulu être DJ et j'ai pas envie de faire le DJ. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, moi, je préfère. Et après, il montre les trucs qu'il fait. C'est déjà filmé en live, en préparant son set, etc. C'est lui-même qui synchronise les trucs pyrotechniques avec l'audio, etc. C'est quand même complexe, quoi. Il y a passé du temps. Et il dit, moi, je préfère faire ça parce que moi, je suis un ingénieur que de m'entraîner à faire le DJ parce que j'aime pas ça. Moi, je suis pas DJ. Et donc, tu vois, ça dépend du mindset aussi. Et après, voilà, quoi. Mais,
bon, après, là où Deadmau5 a été un peu repris, ça a été largement débunké, hein. C'est quand il disait, ouais, de toute façon, plus que la moitié, ils font des sets préenregistrés. Alors qu'en fait, d'avis des autres DJ qui voient les autres DJ et qui connaissent les autres DJ, c'est en fait non. C'est plutôt l'exception. Les gens qui font des sets préenregistrés parce qu'ils ont des albums concept, parce que peut-être Deadmau5 est dans cette philosophie-là. Oui. Mmh. Et ils sont pas du tout regardés de travers. C'est juste que le public est pas au courant de ce qui se passe. Moi, je le vois, hein, quand je suis dans des concerts et des trucs. Moi, j'ai vu hein, des gens sur scène qui font l'électro playback. Bon, ça se ressent tout de suite, mais la majorité des gens, ils ont rien à branler.
Ben
ils
oui,
parce que.
Mais moi, j'ai déjà eu plusieurs fois. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. En parlant avec des gens lambda ou des amis, etc. Mm-hmm. Donc, même bien avant que je faisais de la musique électronique, etc. Parce que, enfin, moi, je veux dire, pour moi, c'était logique, mais bon, visiblement, ça n'est pas pour tout le monde. Et, enfin, je peux comprendre parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Mais. Je veux dire, il y a des gens, par exemple, ils croyaient que quand ils voient un DJ avec deux platines, bah, ils croyaient que le mec, il faisait une performance live comme avec un launchpad et
ouais,
un stem,
c'est
etc.
Il sort les différents sons, alors qu'en fait, non, c'est une track où tu fais play, en fait.
Ah oui, c'est un canal qui joue et qui fait play, quoi. Et puis, il a un deuxième canal avec un autre CD, mais il ne refait pas, il n'est pas en train de refaire le morceau en live, quoi. Mais je vais pas dire, je sais pas quel pourcentage de gens... sont au courant de ça, mais je veux dire, moi, j'ai déjà rencontré pas mal de personnes dans le public, bah, ils savent pas trop, et puis au final, ils se posent pas là jamais la question, parce que je devrais poser la question de but en blanc, tu vois, mais...
Ouais. L'illusion, je pense qu'elle est souvent faite dans le sens où, quand toi, t'entends la musique de David Guetta dans ton casque sur Spotify, c'est pas du tout la même track qui passe en live.
Ouais.
Parce que c'est déjà pas le même remix, enfin, c'est pas le même mix, hein, tout simplement. Des fois, c'est un remix. Des fois, pas un remix de lui, et d'ailleurs, les remix d'autres gens sont meilleurs que les siens. Et déjà, ils donnent pas pareil, tu vois, ils ont peut-être plus de basses en live, ou ils sont plus longs, hein, c'est les extended versions plutôt que les radio-édites. Donc oui, c'est pas les mêmes tracks qui passent. Donc t'as l'impression qu'il va jouer quelque chose d'original. Effectivement, il va jouer quelque chose d'original, mais que tu peux très bien avoir sur Beatport. Voilà, c'est pas inaccessible, mais pour le commun du mortel qui écoute la radio, oui, c'est pas la même chose.
Mais non, ça, c'est pour ça,
ça
que
suffit,
je veux dire.
Hein, d'ailleurs, ça suffit pour le public.
Bah après, du coup, ça. Ah oui, mais ça, je dis pas le contraire. Mais c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au final avant, c'est que ça dépend. Ce qui est important, c'est que le public passe un bon moment. C'est comme justement, je voyais Didmo Citizen Masterclass, c'est le public qui va te dire si t'as fait un bon set ou pas. Si tu vois que t'as personne qui bouge, ben, t'as compris que tu fais de la merde. Donc, du coup, je veux dire, c'est pour ça que ce soit de la. C'est bien de faire de la pro, mais si tu fais de la merde, autant peut-être faire un truc enregistré, tu vois, si c'est mieux fait. Donc après, j'encourage pas vraiment ça. Après, tu peux t'entraîner aussi pour la pro.
Tu confonds quand même deux trucs. C'est-à-dire que tu peux avoir un set millimétré organisé. Tu sais ce que tu vas faire du début à la fin, mais ça reste une performance très technique. C'est pas parce que tu fais de l'impro que c'est plus technique qu'autre chose, quoi. Tu sais, tu peux faire de l'impro pas technique en fait. C'est l'impro, c'est pas vraiment un critère pour moi, quoi.
Pas du tout. Non, mais ouais, ce que c'est de dire, oui. Enfin, après, t'as ton truc, mais tu le refais quand même. Mais c'est juste que c'est préparé, quoi. Donc t'as encore aussi ça. Mais je veux dire, chacun voit midi à sa porte. Tant que le public est content, au final, ce que tu fais derrière, pour moi,
c'est pas important. Voilà.
C'est
ni important.
Bah voilà. Maintenant, je suis curieux, etc. Et c'est vrai que bon, je prends Paul Kalkbrenner encore qui refait des match-up, etc. Mais bon, au final, si t'as un mec qui est un DJ qui gère son truc en tant que DJ, qu'il a une platine à quatre canaux et qu'il a à faire un match-up de foussi avec d'autres morceaux et son morceau à lui, bah pourquoi pas, tu vois. Bah je veux dire, encore une fois, tant que c'est bien fait, etc. Je vais pas me dire, si le mec il a géré et si le set était parfait, je vais pas dire oh là là, c'était un preset. Tu vois, enfin, tant que t'as passé un bon moment, c'est ce qui compte et c'est ce qui marche pour le public aussi. Parce que si tu dis, ouais, moi, je fais tout, j'ai tout fait à l'impro, etc. Mais bon,
t'as fait
de la merde.
Regarde, tu vois, Paul Kalkbrenner, c'est quelqu'un qui va laisser tourner ses tracks assez longtemps, tu vois. C'est beaucoup plus facile de faire de l'impro parce que faut aussi définir c'est quoi un pro, quoi. Lui, il mixe que ses tracks quasi, il les connaît sur le bout des doigts. C'est juste qu'il va arriver à capter comment à adapter son set par rapport au public qu'il a en face de lui, quoi. Est-ce qu'il doit être un peu plus vénère? Est-ce qu'il doit être un peu plus trippant? Et ça, c'est une force. Mais déjà, tu peux pas faire ça dans tous les styles musicaux. Genre, si t'es un groupe, voilà, tu vas pas commencer, tu vas réfléchir à ton show et tu vas pas commencer à faire de l'impro dans.
Ah oui, ça c'est
tout, quoi. Voilà, toi, si t'as fait un solo de guitare, le solo de guitare, il est prévu, il est travaillé et c'est hyper technique. Et c'est pour ça que tu peux pas faire de l'impro là-dedans. Parce que les gens, ils sont pas là pour venir t'écouter, t'entraîner, en fait. Ils sont là pour te voir au meilleur de ta forme. Par exemple, en drum and bass, maintenant avec toutes les facilités techniques qu'il y a sur les contrôleurs ou même sur les nouvelles CDJ, tu peux vraiment, genre, sur un set d'une heure, 60 minutes, tu peux facilement passer, je sais pas, 80, 100 tracks. Mais ça, tu le fais jamais en impro, en fait. Parce que quoi, le temps que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu veux mettre, t'as déjà raté le moment où tu dois lancer ta track. Donc, en fait, l'impro, c'est pas un argument, quoi. C'est ça que je veux te dire. Après, je suis d'accord que ça
va. Ouais, moi, je vais peut-être mal élaborer ma réflexion, mais c'est pour ça que je dis que moi, les deux, pour moi, c'est des trucs viables. Hein. Moi, honnêtement, en tant que producteur, soit en tant qu'auditeur, en tant que producteur, dans les deux cas, je me dis, les deux sont viables. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun va m'aider à sa porte. Tant que le public est content au final, mais je ne compare pas. Et moi, non, je ne dis pas que la pro est un argument. En fait, il faut faire ce qu'on est à l'aise. Voilà, Paul Kalkbrenner, il fait ça, il le gère super bien. Bah, tant mieux, nice pour lui. Après, bon, Didmus, bah, après, bon, on s'en fout. Enfin, et peut-être qu'il dit des conneries aussi parfois. Enfin, là, je peux pas faire la polémique, mais comme il dit, dans l'absolu, tu vois, si toi, t'es plus confortable à faire un set préenregistré, mais qu'il est bien fait, bah, ça marche aussi, tu vois, encore une fois. C'est tant que c'est le public qui va parler, quoi.
Bah, vaut mieux qu'il fasse un set enregistré plutôt qu'il fasse de la merde pendant une heure. Ça, c'est
ce que j'essayais de dire, en fait, j'essayais de dire. Mais voilà, pour moi, je dis, pour ceux qui nous écoutent en tant que producteur, moi, j'allais te dire, voilà, il y a ces différentes possibilités-là, à tester un peu, voir que vous êtes le plus à l'aise. Moi, par exemple, toi, Zekeno, t'es super à l'aise en tant que DJ parce que t'as beaucoup de pratique. Moi, par exemple, j'ai essayé un peu le DJ, bon, c'est marrant, mais. Enfin, je sens que c'est pas pour moi, en fait. Et moi, justement, je pense que, justement, vu que je suis plus à l'aise avec mes tracks, parce que je les connais, vu que je les ai réécoutés pendant des heures et des heures en les faisant, etc., je pense que je vais partir sur de la performance live, parce que ça me convient mieux, quoi, simplement. Mais après, t'as Osinji, par exemple, lui, au final, alors qu'il compose, etc., et il a pas ton expérience de DJ, mais il se sent quand même plus à l'aise en DJ qu'à faire de la performance live, et il a dit, moi, j'ai pas de DJ.
En fait, il faut que t'ailles là où tu prends du plaisir.
C'est ça.
Si tu dois te forcer, c'est pas bon, quoi.
C'est ça.
C'est pas viable sur le long terme. Pour terminer sur l'impro, moi, je pense que ça, c'est vraiment plus un truc de DJ. Je vais te prendre un exemple. Donc, moi, j'ai été mixé à une rave en dessous d'un tunnel il y a 3 semaines. J'avais préparé, j'ai été prévenu la veille. Donc, je devais mixer 1 heure. J'avais plus ou moins 40 minutes de prêt déjà, tu vois. Et puis, je ferai 20 minutes d'impro. Finalement, j'arrive. Donc, c'est une rave avec du matos pas ouf, pas d'ingé son, en dessous d'un tunnel. Donc, tu as une configuration acoustique particulière. Donc, je commence et je me rends compte que mes mashups ne sonnent pas bien, en fait. Il y a trop d'écho, etc. Tu vois. Eh ben, pas le choix de s'adapter, en fait. Donc là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, finalement, déjà, j'ai mixé 2 heures parce que c'était bonne franquette, ils m'ont laissé. Donc, ben, de ce que j'avais préparé, j'ai dû mixer 1/4 d'heure et après, j'ai fait de l'impro pendant 1h45. Mais toujours avec des tracks que je connaissais, etc. quoi. Donc, c'est jamais de la totale impro. Mais quand t'es DJ, savoir s'adapter, c'est assez important finalement. Mais quand tu fais du live, par exemple, je pense pas que t'es vraiment cette liberté, tu vois. Alors, tu peux t'adapter. Vas-y.
Si tu peux un petit peu. Enfin, il y avait, comment il s'appelle? Pas Airwave, Deep Forest. Tu sais, Deep Forest nous avait présenté l'Invi, son set live un petit peu, où il avait une tablette, un iPad. Où dessus, il pouvait lancer d'un bout de doigt, en fait, ses différentes scènes, tu vois. Ouais. Et je sais qu'un groupe live aussi, il a son set, tu sais, écrit sur un bout de papier. T'as toujours les tracks, le tracklist, tu vois. Ah ben, c'est aussi, ça peut arriver quand le public réagit pas forcément. Et tu sens que le public est là pour une musique en particulier. Et je sais que Deep Forest le fait aussi souvent. Il a sa musique fétiche. Hein, que tout le monde connaît, tout le monde vient le voir pour ça. Bah, des fois, s'il voit que le public accroche à son set original, bah, il le continue, mais s'il voit que le public s'endort, bah, il lance son... En fait, il a plusieurs versions de sa track populaire, ouais. Et tout d'un coup, il va lancer celle-là, et hop, petite mélodie, elle va accrocher le public, tu vois.
Après, non, bien sûr, t'as de la marge,
faut s'adapter. Oui,
mais n'empêche que pour faire du live... Tu dois charger tes presets, en fait. Donc, voilà, tu vois, t'es quand même limité.
Bah, lui, il avait la technique de, hop, en un coup de doigt, pouf, il chargeait tous ses presets et il avait son piano qui était...
Ouais, ben, imagine, la track qu'il veut envoyer, il est à la 3e track et il veut envoyer la 14e. Ben oui, il peut le faire sans problème, ouais.
Voilà, ouais. Et un groupe de musique, il peut tout simplement, bah, entre les tracks, parce qu'il n'y a pas trop d'enchaînement, bah, ils se concertent, ils disent, bon, bah, on va passer... Tac, tac, et puis ils y vont.
Ben, encore une fois, groupe de musique, ça dépend à quel point tu prépares ton show, en fait. Parce que ouais. Si tu as des trucs pyrotechniques ou des espèces de trucs un peu extra musicaux, plus visuels,
ouais, c'est vrai.
Ça va vraiment dépendre de plein de facteurs.
Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les yeux tous les trois et on va se rappeler de ce qu'on a dit avant, nos meilleures expériences de concert. Et on va se dire que c'est ça notre objectif à atteindre. C'est ça qu'on veut faire plus tard. L'Invi, donc, avec Paul Kalbrenner, moi avec Prodigy
Kavinsky.
ou... Attends, il y a un problème de micro. Tu peux te taire, s'il te plaît. Avec Prodigy ou Skrillex. Et puis Azekeno avec Patrick Sébastien. C'était ça, hein, je crois.
On va faire tourner les serviettes. Hein. C'est pour ça qu'on est là.
Voilà. Puis, pour moi, c'est ça qui est important, c'est de se dire « Ouais, j'aimerais bien faire un peu comme... » Non, on veut faire comme lui, on veut atteindre cet objectif. Et peut-être... par coup de bol et puis par beaucoup de travail, on y arrive aussi. Hein. Voilà.
Par beaucoup de travail, ça c'est sûr.
Voilà.
Et un peu de chance, on va pas.
Voilà. Merci Azekeno, ta présence.
Merci à vous.
Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut écouter ta musique?
Alors, on peut écouter ma musique sur SoundCloud, Azekeno, tout simple.
Donc et ça s'écrit comment, Azekeno?
H-A-Z-E espace ouais. K-E-N-O.
D'accord. Et sur SoundCloud, j'imagine il n'y a pas d'espace?
Si, il y a un espace en 2 mots.
Ah, un espace, ok. Cool.
Sinon, je suis sur Instagram, Esken Official, avec un seul O, en un mot.
On mettra les liens dans les commentaires de ce podcast. Mais c'est cool. Très bien. Toi, l'Invi, on te retrouve où?
Sur linvi.com, linvy.com. Il y a tous les liens sur mon site. T'as toutes les plateformes.
Toutes les plateformes du monde entier, de l'Afrique, de l'Asie.
Il est partout. Il est parti.
Ouais, non, il a tout grindé. C'est la folie, quoi. Je suis jaloux de son truc, là. Mais voilà, vous pouvez l'écouter de partout, même au fin fond de la Mongolie, jusqu'à l'Himalaya. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et moi, où est-ce qu'on peut me trouver? C'est sur mwtprod.com. PKMWT sur tout ce qui. Ou partout où tu peux m'écouter. Voilà. Et puis pour ce podcast, on a un joli site internet, entre deux notes en un mot, avec un S à note, hein, j'imagine, .com. Donc on trouvera ici tous les liens pour écouter le podcast. Si jamais vous avez écouté le podcast mais vous ne saviez plus de où, ben voilà, ben vous saurez où le retrouver. Et c'est surtout aussi les liens pour nous soutenir. Voilà, si vous avez envie de nous soutenir, bah top. N'hésitez pas à commenter ce podcast, mettre des étoiles, des likes, des je sais pas quoi, les partager et puis nous faire des commentaires si vous avez trouvé qu'on a raconté des conneries. C'est pas grave, on fera un erratum au prochain épisode. En tout cas, je vous remercie tous les deux et puis bah, je dis ciao à tous les auditeurs. Ciao, ciao.
Ciao.